I can see clearly when you go. Oh, and I said, ooh, I'm blinded by the lights. Oh, I can't sleep in the dark.
Bonjour à tous, bienvenue à la rediffusion de Derrière des micros, la fameuse rediffusion du podcast numéro 13. J'espère que vous allez bien, mes petits choupinets, buveurs de bière. Donc, cette semaine, podcast encore une fois très, très, très spécial, car nous avons reçu le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, et le maire de Bécancourt, Jean-Guy Dubois. Ça a été vraiment un très, très, très le fun podcast. Malheureusement, ça n'a pas été très long. Donc, une heure et demie, podcast assez court, parce que Monsieur Dubois devait partir. Donc, ça a été quand même super le fun. Donc, on avait un peu Trois-Rivières versus Bécancourt. Et c'est pour ça qu'on a choisi de prendre des produits de la microbrasserie du temps d'une pinte et des produits de la microbrasserie OK des Brasseurs. D'ailleurs, on a tourné ce fameux podcast en même temps que la date de la fête des mères. Donc, bonne fête à vous, les mamans. Continuez votre beau travail. Donc voilà, c'est tout pour l'intro. Oui, d'ailleurs, j'allais quasiment oublier, derrière des micros, sont rendus avec des verres de dégustation. Donc, des petits verres de 6 onces, ça donne environ 117 millilitres. On a un genre de petit verre à brander, si je pourrais dire. C'est vraiment fait pour les dégustations, pour ceux qui sont pas habitués de déguster des bières, en fait, qui boivent une bière, une IPA ou une sour, puis qui rentrent assez rapidement. Ben, ça va être fait pour vous, pour apprendre à déguster un petit peu plus lentement, puis essayer de trouver tous les arômes de bière. On en a parlé dans le podcast, d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Donc on a le petit logo de derrière des micros, la petite bière qui fait un chin avec le micro. On est vraiment vraiment très contents, c'est les verres qu'on va utiliser maintenant derrière les micros. Et voilà, donc vous pouvez venir vous les procurer à la shop directement. On en a reçu en petite quantité et c'est des verres collector, donc je sais pas s'ils vont revenir. Donc, n'hésitez pas à venir vous procurer ça à la shop. Passez une excellente semaine, puis on se dit à la semaine prochaine pour le podcast numéro 14. Ciao tout le monde! Tabarnak, je te l'ai drillé, cette intro-là! Bonjour à tous, bienvenue au podcast de Derrière des micros, podcast numéro 13. J'espère que vous allez bien. Donc, cette semaine, podcast très spécial. Donc, on reçoit deux nouveaux invités. Donc, Jean Lamarche, qui est le maire de Trois-Rivières.
Bonjour, bonjour. Ben, avoir su que c'est le 13, Jean-Guy, on n'aurait peut-être pas attendre une semaine, hein? On serait peut-être allé pour le 14 ou...
Ah oui! on va le prendre maintenant, il est trop tard.
Et on reçoit Jean-Guy Dubois, qui est le maire de Bécancourt. Vous allez bien?
Oui, ça me fait plaisir d'être là aussi.
Ben, merci beaucoup de participer à notre podcast. C'est vraiment super le fun de vous recevoir. Yes, donc en même temps, en plus, on tourne pour la fête des mères. Donc, bonne fête des mères à tous ceux qui regardent le podcast. Cette semaine, on va boire aussi des produits qui est en lien avec les villes, justement, Trois-Rivières et Bécancourt. Donc, on a le temps d'une pinte qui est situé juste à côté de chez nous, donc au centre-ville de Trois-Rivières, sur la rue Notre-Dame. Et on a aussi le quai des Brasseurs. Donc, on va commencer de ce pas avec la représentation des produits de ce qu'on va boire cette semaine. Puis ensuite, on va commencer ce petit podcast. Donc, papa, si tu veux bien venir nous montrer les produits pour que Martin nous présente ça. Puis, c'est ça. Puis, on va enchaîner pour la première question. J'aimerais savoir la passion. De votre goût pour la bière de microbrasserie, il vient de où? Est-ce que vous avez commencé par le commercial? Est-ce que vous avez commencé directement avec la microbrasserie? Êtes-vous des fans de fort? Êtes-vous des fans de vin, etc.? Donc, on va commencer avec M. Lamarche.
Ben, écoutez, moi, j'étais à l'ouverture du Gambrinus, où j'ai travaillé plusieurs années comme DJ. Donc, ça veut pas, quelque part, c'est là que s'est développé là, le goût et l'intérêt pour les bières artisanales ou de microbrasserie. Par la suite, je te dirais que le goût s'est développé, le goût s'est précisé aussi. Il y a des, je, je, Je peux pas dire que j'aime toutes les microbrasseries. Je peux pas dire que j'aime tous les types de bières. Je pense qu'avec le temps, on se raffine aussi, puis on vient qu'à être plus difficile ou avoir ses choix. J'ai aussi, j'ai envie de vous dire que oui, Trois-Rivières, on est bien nantis. Lorsque je suis allé, par exemple, dans l'Est des États-Unis, là aussi, c'est une belle place aussi pour développer son goût, notamment là, de tout ce qui est IPA, le fameux IPA.
Ouais,
c'est un bel endroit.
Les IPA aussi, le style IPA là-bas, il est très, très populaire aussi aux États-Unis. Puis il y a la Belgique, l'Allemagne aussi qui font des très, très, très beaux produits là, dans les bières de microbrasserie. Et vous, M. Dubois?
Ah, bon, je dirais que ça s'est fait en deux étapes. La première étape, c'est celle de la curiosité, de la nouveauté, parce que moi, j'ai grandi à l'époque où il y avait, je dirais, deux brasseries. Là. Il y avait Molson puis Labatt. On n'avait pas le choix. Là. À mon époque, on buvait de la Laurentide. Puis on ne se posait pas de questions. Ça goûtait toute la même chose, tout le temps la même chose. C'était toujours pareil. Donc, il y a eu l'époque de curiosité qui est arrivée alors que les premières bières sont arrivées. C'est commencé un petit peu avec Charlebois à l'époque, hein, et avec la Blanche de Chambly, ces choses-là.
Ouais.
Et la deuxième étape, ben, c'est quand le Quai des Brasseurs a ouvert. Là, ça a été la partie, je dirais, plus d'intérêt.
La
là,
piqûre.
Ça se passait, puis Dieu sait que moi, ce qui se passe à Bécancour, c'est bien important. Donc... Alors, on avait notre microbrasserie à Bécancour, qui n'était pas n'importe quoi, parce que le Quai des Brasseurs, c'est un gros kit, je dirais. Là. Donc, ça a été la deuxième étape, et là, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus. Donc, dans ce sens-là, peut-être que le fait d'avoir quelque chose à proximité, ou de connaître des gens qui, ou d'avoir certains éléments de stimuli supplémentaires, bien, ça aide à s'y intéresser au bien de microbrasserie.
Oui, exact.
C'est drôle parce que, si tu me permets, tu parlais des bières de Charlebois, mais il y a eu beaucoup d'essais à une époque où les gens tentaient de rentrer de la microbrasserie, là, notamment dans les bars et les épiceries. Puis je me souviens qu'il y avait une bière qui s'appelait la quelque chose, qui était une bière aux cerises d'après-ski. Puis lorsqu'on était, je travaillais au Zenob à l'époque, puis il fallait la faire chauffer dans le micro-ondes avant de la servir aux gens, c'était épouvantable. Mais ça faisait partie des essais qui se faisaient. Il y avait la Portneuvoise de Portneuf qui était, là aujourd'hui c'est correct, mais à l'époque, dépendamment, tu savais exactement qui l'avait brassé ou à peu près, parce qu'elle ne goûtait pas toujours la même chose.
Ouais.
Il y avait il fallait commencer quelque part.
Portneuvoise, en fait, c'est la microbrasserie Les Grands Bois, qui se situe à Saint-Casimir, puis c'est un peu pour reconnaître l'ancienne microbrasserie. Je pense que c'était une microbrasserie qui s'appelait la Portneuvoise. Puis c'est ça, ils ont fait une bière qui s'appelle la Portneuvoise, qui est une pale ale, si je me trompe pas, puis qui est très, très bonne, là, une bonne effervescence, un bon petit goût de la céréale fraîche qui va ressortir. Là. Donc, si ça vous intéresse de boire ce produit-là...
Dans les années 80, ton père pourra opiner du bonnet, mais elle se vendait surtout au Popsicle, qui était un bar alternatif, là. C'est au coin de Champlain et Saint-Roch.
C'est vrai, mais je ne l'ai pas dit, mais c'est mon père qui vient faire le technicien aujourd'hui. Donc, salut, papa.
Un petit peu, là. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être là. Curieux pour moi de me retrouver dans le poste de technicien, parce qu'habituellement, quand j'ai des problèmes techniques, c'est moi qui appelle les garçons. Et puis là, les garçons ont fait appel à moi. Fait que s'il y a des problèmes techniques, n'hésitez pas à m'écrire et soyez indulgents. Et aujourd'hui, on verra qui brasse la meilleure bière, Trois-Rivières ou Bécancour. On le verra aujourd'hui. Les belligérants sont prêts.
On lance les paris.
Je n'ai pas besoin d'y goûter. Moi, mon jugement est déjà pas mal.
Ouais, puis peu importe, nos votes sont pas mal réglés, je pense, hein, Jean-Guy?
Mais c'est fun en plus parce que c'est deux très, très belles microbrasseries. Et le temps d'une pinte, tout récemment, sont rendus à vendre. Ils ont des points de vente à Montréal maintenant. Donc ça, c'est super le fun qu'on commence vraiment, les microbrasseries en Mauricie commencent à, tranquillement pas vite, à s'extendre un petit peu plus. Là. Fait que ça, c'est super le fun de voir ça. Là. Allez. Fait que Martin, je vais te laisser présenter les produits de ce soir.
Donc pour les produits, on va commencer avec une bière du Quai des Brasseurs, la Cubicus, qui est une bière sûre aux fruits tropicaux. Fait qu'il y a de la mangue, de l'ananas. Du fruit de la passion et de la goyave. Donc, on commence avec ce produit-là. On va ensuite...
Ça, c'est tous des fruits qui poussent dans le secteur Saint-Gertrude, c'est
oui,
ça?
Oui, absolument, à la ferme bio Cancour.
Et on va enchaîner après la rosée du temps d'une pinte, qui est elle aussi une bière sûre, aux petits fruits cette fois-ci. Il y a, si je me souviens bien, de la canneberge, de la mûre, de la framboise, du cassis aussi, je crois. C'est quand même un beau petit mélange de petits fruits. Après, on va enchaîner avec deux IPA. Donc, on retourne avec le Quai des Brasseurs avec la Petite Floride, qui est une IPA, là, Juicy IPA, qui appelle IPA juteuse. Donc, un peu plus des arômes d'agrumes, un peu de fruits tropicaux. Très légère amertume. C'est un bon produit qui se boit bien. Et on a la Long Nose du temps d'une pinte, qui est un autre IPA tropical, qu'on pourrait dire. Elle aussi, là, un peu dans les mêmes notes, agrumées, fruits tropicaux. Peut-être une amertume très légèrement plus présente que la Petite Floride, mais c'est pas une grosse différence. Ouais. Là.
Donc, on a décidé d'y aller avec vraiment les goûts du jour, le style IPA, puis les styles sûrs, maintenant, ont pris une ampleur de fou. Les sours, surtout l'été. Puis les IPA, on va se le dire, c'est le style le plus populaire au Québec. Puis encore là, aux États-Unis, c'est un style qui pogne énormément. Donc, on est allé avec deux styles très, très populaires. Est-ce que vous êtes des amateurs d'IPA ou des amateurs de bière sûre? C'est quoi vos styles préférés de bière?
Oui, si tu me permets, Jean-Guy. Moi, j'aime beaucoup les... IPA, mais lorsque c'est New England, Côte-Est, tout ce secteur-là, c'est vraiment des produits que je préfère. La sûre, ce que j'aime d'avoir de la bière sûre, par exemple, chez moi, ça surprend notamment les amateurs de vin et de vin blanc. Lorsque tu vas chercher quelqu'un qui est habitué, qui prend moins de bière, puis que tu veux lui faire l'introduire à ce produit-là, je pense qu'une bière comme la Cubitis ou la Rosie, vient là, justement, là, ou n'importe quelle bière aux framboises, par exemple, va venir s'installer, puis ça se prend bien, puis ça vient comme s'offrir comme une alternative,
je dirais, vient chercher blanc, l'acidité un peu du vin. Puis aussi, il y a beaucoup de bières qui se font vieillies ou sur des marques de raisin ou vieillies avec du merlot, avec des vins qui est très... Moi, c'est dans mes styles préférés de bière, des assemblages, que c'est très, très bon. Donc, on va chercher le petit côté vineux qu'on a dans le vin. Puis aussi, un petit aspect de la bière qui va ressortir. C'est très intéressant comme produit, là.
Ah ben là, je vous écoute, puis vous avez de l'avance sur moi, bon. Ce qui me concerne.
On va commencer par vous.
Ouais.
C'est la bière de votre région.
D'accord.
Vous allez traverser le pont pour venir nous voir.
Et tu poses la question, les IPA et ces choses-là. Moi, ma préférée, c'est toujours la petite dernière qu'on a passée aujourd'hui, là, qui est une bière blonde standard, là, si vous voulez. Donc, je ne suis pas... IPA, pas vraiment, non, parce que je trouve que ça a une amertume qui me plaît moins.
Okay.
Mais aujourd'hui, là, vous allez m'éduquer. Là,
ouais, on va vous faire sortir un peu de la zone de confort.
Ouvert à l'éducation.
Parfait, ça. C'est important, surtout en microbrasserie. Là, il y a plein de découvertes qu'on peut faire puis des goûts qu'on peut développer. Là. C'est vraiment intéressant.
On va la jouer, la game des chauvins, là, mais je vais faire une petite parenthèse pour dire que le Quai des Brasseurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un endroit qui touche un large public. Les gens viennent de loin, viennent en voiture, viennent en moto. Puis, c'est important pour le Quai des Brasseurs d'avoir des bières de qualité dans chaque gamme de produits. Puis, c'est là que d'avoir une bière qui est en apparence accessible, bien, ça permet justement à des gens d'aller fréquenter le Quai des Brasseurs.
Oui, exact. Mais c'est vrai, c'est bien de le souligner qu'ils font des très, très beaux produits. Puis, on voit que mon père, il a un petit parti pris pour un des deux mères. Là. Il a versé. Non, c'est juste que le dosage, il n'a pas été, mais c'est pas grave.
Ben,
il n'est pas super.
Ou il a été averti de ne pas trop m'en donner à la fois. Ouais,
hein, c'est ça, exact.
Non, c'est... On peut
goûter, là?
Oui, sans problème. Donc, nous, le processus de goût pour déguster une bière, en fait, ce qu'on fait souvent, c'est on regarde la bière en premier pour voir un peu la couleur qu'elle a. Des fois, on peut se donner une bonne idée de ce qu'il va avoir. Donc là, on a l'aspect agrumé, là, fruits tropicaux qui va ressortir tropical. Ouais, ça a la teinte un peu d'une New England IPA quasiment. Là.
New England IPA et un pina colada.
Ouais, exact. Puis on a un bon petit collet aussi. Là, donc on sait qu'on va avoir un corps... puis une bonne effervescence, là. On est... on a l'aspect tropical qui ressort énormément, là, les fruits, la pêche, le melon, etc., etc. Puis on a ce petit aspect-là un peu citronné, un peu sour, ouais, qui va ressortir également. Là.
Énormément. Moi, je trouve que c'est vraiment au nez l'ananas qui domine plus.
Oui, l'ananas, c'est vrai. Hein, ça sent exotique. Là. Donc, Chin, bonne dégustation. Merci d'être là encore ce soir. Mon père, c'est pas un habitué de sour. Disons que c'est pas son style préféré. On le voit dans la face qu'il fait. Ouais.
Ça me rappelle les petits bonbons sûrs de Mahanes, là. Oui. Il y a juste au magasin Lebrun qu'on retrouve à cette heure. Là.
Oui.
Publicité gratuite pour eux autres. Non, ça, j'avoue, est bonne, mais
mes ça gens, colle les joues dense. Un peu. L'effet, ouais, surette, ça donne l'impression, ouais, que les joues veulent se coller.
Oui, effectivement.
Ouais.
Mais en bouche, on a vraiment une bonne effervescence. On voit que c'est des bonnes bières d'été autour d'une piscine. Quand il fait chaud, c'est rafraîchissant. T'as un bon goût fruité. Un bon petit goût de la céréale qui va ressortir en finale aussi. C'est vraiment très intéressant comme produit. Puis encore là, au goût, on a l'ananas, la pêche qui va ressortir. Un peu les melons, melon-miel, j'ai l'impression, un petit peu aussi. Là. Fait que c'est très intéressant de goûter à des produits, ouais, comme ça.
Contrairement aux bières standards, on dirait que ça pétille un petit peu dans la bouche.
Oui, exact. L'effervescence, là, ouais, est un petit peu plus...
C'est la première fois que je ressens cette sensation-là de pétillement, comme, ouais, comme on va prendre...
un champagne, par exemple.
Un champagne, absolument, c'est ça, exactement.
Oui, non, c'est ça, ça va... Ce que ça va donner à la bière, l'effervescence, je trouve, c'est un côté un petit peu plus rafraîchissant, un corps un petit peu plus développé aussi, là, c'est le fun d'avoir cet aspect-là, là. Ça vient un petit peu plus sec, là, que ouais, ça change le corps, là.
Et là, c'est ça, l'effet champagne vin blanc, là, ouais, c'est que ça vient sec vite, là, puis c'est...
Exact. Non, c'est vraiment un très, très beau produit.
Je découvre.
Oui, exact.
Je découvre. Et le principe là, avec les fruits tropicaux, c'est, vraiment, c'est, je suis agréablement surpris.
Bon, ben génial ça. Puis ce qui est le fun aussi ce soir avec les produits qu'on boit, c'est que c'est tous des produits réguliers que les microbrasseries font. Donc, c'est tous des beaux produits, puis c'est tous des produits accessibles parce que parfois, il y a des microbrasseries qui font des produits qui sortent en quantité très limitée, puis qui ressortent une fois par année ou qui ne ressortent plus. Donc ça, là, les quatre produits qu'on va boire ce soir, c'est tous des produits que vous pouvez aller chercher directement aux microbrasseries. C'est sûr qu'en fût, c'est une autre expérience aussi, puis c'est le fun de visiter les microbrasseries ou des produits que vous pouvez venir vous procurer à la shop également. Là.
Donc, de préférence, ils devraient venir ici.
Oui, exactement. Mais bon, c'est toujours le fun aussi d'aller dire bonjour aux gens des microbrasseries.
On sent bien la céréale. Je ne m'attendais, oui, pas à ça pour une bière sûre. Là. Au nez, on sent beaucoup la céréale. C'est particulier. Puis je te dirais que la deuxième gorgée, elle fait moins coller les joues.
Oui, c'est ça. On s'est fait à l'idée.
Fini par t'habituer.
Oui, c'est ça.
C'est un peu comme l'amertume d'une IPA, en fait. Le côté sour, c'est un peu comme l'amertume d'une IPA. L'amertume d'une IPA, t'as bois la première fois, oh, et ta mère, tu sais, elle vient te chercher la langue encore là, elle vient fesser un petit peu, puis là, plus t'en bois, plus que l'amertume va être douce, puis tu vas finir par t'habituer.
Le goût de fruits, là, on les décrit, là, tu sais, ananas, pêche et tout ça, mais ils sont créés. Ils sont pas induits. Il n'y a pas quelqu'un qui a rentré un parfum dans ceux-là. C'est un peu comme le pamplemousse pour. C'est ça.
Exactement.
C'est la réaction de brassicole qui va faire en sorte qu'on va avoir une impression.
Parfois, c'est. Ils font l'ajout de fruits carrément à l'intérieur de la bière.
Dans ce cas-ci.
La cubicule, je pense qu'il y a des ajouts de fruits. Hein? Oui, c'est ça. Exact.
Il y a une purée de chaque fruit, ananas, okay, fruit de la passion, mangue, goyave. Fait que ça va vraiment ressortir le vrai côté là, fruité. Là, on n'a pas un goût de fruits artificiel. En fait, dans la plupart des microbrasseries,
c'est très rare.
C'est rare qu'on va utiliser des essences. En fait, c'est mal vu d'utiliser des essences qui vont donner un goût de fruits ou un autre goût quelconque. Fait que la plupart des brasseries, quand ils vont faire une bière qui va être au goût plus fruité, ça, c'est parce que c'est le mélange des ingrédients. Fait que là, des fois, le houblon, des fois, la levure qui va ressortir un petit goût fruité. Mmh. Ou sinon, c'est carrément un ajout de fruits durant la fermentation ou de purée de fruits ou parfois jus de fruits. Puis le plus comme naturel possible. Là,
mais en fait, je faisais plus référence à la mémoire des sens. Tu sais, si c'est amer, on va associer ça au pamplemousse. Si c'est ça, on va associer ça à la framboise ou à l'ananas. Fait que là, c'est pas ça. Il y a vraiment de la purée de
fruits
dedans.
Oui, exact. Puis il est filtré, bien sûr, parce qu'il y a des microbrasseries maintenant qui font ce qui s'appelle des bières smoothies. Puis qui file pas la purée de fruits. Donc, quand on boit la bière, quand on voit aussi la bière, là, c'est vraiment comme un smoothie. Tu as les grumeaux de fruits à l'intérieur carrément. Là. Fait que ça, c'est très intéressant.
Jean-Guy, bière et grumeaux, pour toi, c'est...
Il y a une question que je me pose. Les bières standard, habituelles, moi, je prends souvent la petite dernière, là. Il n'y a pas le collet blanc autour. Là.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un lien entre un collet qui est comme ça, que je trouve bien le fun, que j'adore, et le style de bière? Est-ce qu'il y a plus de chances qu'on développe ce collet blanc-là? Je ne sais pas le nom que ça peut avoir, ça-là, là, dans votre langage à vous autres, là, mais ce petit collet-là qui dure tout le temps qu'on boit.
Oui, bien, en fait, ça en dit gros, je vous dirais, sur la texture de la bière et sur l'effervescence, le pétillant, en fait. Souvent, quand on va avoir une bière un petit peu plus liquoreuse, donc vraiment plus mélasse, si je peux dire, des bières noires, des bières plus foncées, peut-être que la mousse de la bière va être un petit peu moins présente. Puis là, on va laisser place à la texture. Tandis que quand on a une bière plus effervescente, qu'on va avoir une petite mousse un petit peu plus intense. Là, tu vas le savoir que ça va être une bière plus rafraîchissante, qui va avoir des bulles de plus, un petit peu plus sec. Là.
Et l'effervescence, elle, essentiellement, elle vient de l'utilisation de ce que tu mets dans ta bière, là, les divers essences, pas essences, mais les divers ingrédients que tu mets dedans.
Exactement, oui. Ouais,
ben, souvent, en fait, c'est la levure qui va manger le sucre qui est contenu dans la bière, qui va créer du gaz, de l'alcool et par entremise des saveurs. Il y a certains types de levures, parce qu'il y a plein de sortes de levures différentes, certains types de levures qui vont faire beaucoup plus de gaz, d'autres qui vont en faire un peu moins, d'autres ça va être plus normal. Et ça dépend aussi du nombre, le montant de sucre que la levure peut a accès à manger. Fait que s'il n'y a pas tant de sucre résiduel dans durant la fermentation, on parle plus peut-être d'une bière blonde, des fois, l'effervescence est plus standard, on pourrait dire. Il y a des bières noires où, que oui, il y a beaucoup de sucre, un peu plus de sucre des fois au départ, mais la type de levure va manger beaucoup les sucres qui va créer plus d'alcool, un peu moins d'effervescence. Et c'est vraiment certains styles, oui, comme les bières sûres, souvent qu'on retrouve, ont un petit peu plus cette mousse-là, ce collet, c'est le bon mot, un collet de mousse plus présent. Puis d'autres, il y a certains types de bières blondes, comme les saisons, qui aussi ont une effervescence accrue.
Est-ce que c'est possible, ça, puis t'en viens là, est-ce que c'est possible que plus une bière est jeune, plus elle risque d'avoir de l'effervescence, comme les bières de consommation presque immédiate, comme les bières de saison et tout ça, est-ce qu'ils sont forcément plus effervescentes ou pas nécessairement?
En fait, c'est un peu comme je pourrais vous dire, du Coke ou du Pepsi, c'est sûr qu'avec le temps, l'effervescence va finir par s'adoucir, là. Donc, si on boit une bière plus fraîche qui vient d'être fabriquée en canette, on va avoir un côté plus effervescent dans la bière. Mais avec les canettes, je vous dirais que c'est très rare là, la perte de corps d'effervescence parce qu'il n'y a pas d'air qui rentre du tout à l'intérieur. Fait que c'est... Okay. Mais c'est sûr qu'avec le temps, tout dépendant du nombre de temps aussi, mais avec le temps, ça finit par s'adoucir. Là.
Donc, tu viens de répondre à une de mes questions futures. Le fait que boire une bière en bouteille, moi, je me semble que je ne suis pas porté à acheter des canettes. Je suis plus porté à acheter des bouteilles. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune idée. C'est émotif, là, tu vas me dire. Là, mais est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est altéré par le fait de prendre une canette plutôt qu'une bouteille?
En fait, là, sur le marché... Moi puis Martin, on estime que d'ici quelques années, 2-3 ans, la bouteille ne fera plus partie des tablettes, à part pour les produits un petit peu plus vieillis, en bourbon, en rhum, etc., des bières plus assemblages.
Mais la bouteille, Jean-Guy, c'est bien que tu le dises, parce que la bouteille joue un rôle.
Ben oui.
Parce que l'effet moufette, là, le skunk, C'est ça, on vient chercher qu'une bouteille verte.
Exactement, oui, exactement.
C'est la grosse différence, en fait, là, parce que dans le fond, la bière va être affectée par le soleil. Si une bière est mise au soleil pour une bonne période, elle va développer, les goûts vont changer. Puis souvent, quand on parle des bières qui ont un petit peu plus de houblon dedans, cet aspect-là, moufette, va ressortir à la longue. C'est la réaction entre, je pense, les rayons UV et la bière, certains ingrédients dans la bière. Donc, si on a une bouteille, la bouteille brune va vraiment beaucoup ralentir le rayon, mais elle a quand même cet aspect-là un peu, cet effet-là va quand même se produire, versus une canette qui est complètement opaque, qui ne laisse pas rentrer la lumière, on ne pourra pas avoir cet effet-là. On peut la remarquer des fois avec une Heineken. On prend une Heineken en bouteille. Vu que la bouteille est verte, l'effet de soleil passe beaucoup plus. Et on prend une Heineken en canette. Puis souvent, la Heineken en bouteille, on retrouve vraiment l'aspect moufette qu'on appelle skunk, versus la canette, c'est pas ou à peine présent. Là.
Puis maintenant... je vous dirais, avec la qualité des canettes qu'on fait aujourd'hui, le goût... avant, c'était très différent, mais aujourd'hui, le goût des canettes, le goût des bières en canettes, là, c'est rendu vraiment à sa coche. Là, on ne voit plus la différence. Puis, il y a beaucoup... Les gens commencent à beaucoup plus aimer la canette, puis on voit des avantages aussi parce que, par exemple, dans des campings ou dans des endroits, des fois, ils n'acceptent pas les bouteilles. Mais là, on a les canettes de bière de microbrasserie. Sinon, quand t'échappe une canette, elle n'explose pas partout à terre. Ça se transporte beaucoup mieux. Maintenant, on peut faire vieillir des bières en canette, ce qui n'était pas possible avant. Puis aussi,
Charles, le fait que la bière de micro, on va être plus porté de verser ça dans un verre pour avoir les dépôts que de le boire directement à canette comme on faisait avec les bières commerciales.
Mais même en buvant dans une bouteille, tandis que boire dans une canette, c'est très différent parce qu'on a le réflexe que quand on boit dans une bouteille, on bouche le trou complètement. Tandis que dans une canette, on laisse de l'air passer, puis de l'oxygène, c'est toujours... Oui.
On a une question, je m'excuse de vous interrompre, puis avant d'aller à la question, pour répondre à M. Dubois pour la mousse. À l'époque, vous vous souviendrez, messieurs, arrivait d'un bar, une draft de fond de baril d'un verre sale, ça donnait une bonne mousse, ça.
Oui, c'est ça. Chez Jack Toupin.
Oui.
Le Bécan? C'était le Bécan que vous aviez chez vous.
Au Bécan, puis dans le bar Saint-Angèle aussi à l'époque. Ouais. Donc, on a Turn Up Carrot 75 qui nous demande « Pouvez-vous décrire c'est quoi l'aspect moufette? » Il n'a pas bu une Heineken chaude, certain, lui, saurait de quoi cette suite.
Ben, moi, je vais laisser, en fait, soit Martin la parole, parce que moi, je l'ai dit souvent, j'ai jamais été un amateur de commercial, puis j'ai jamais bu vraiment du commercial. Donc, les goûts moufettes ou ces affaires-là, je connais pas vraiment cet aspect-là des bières. Moi, je trouve que ça goûte toute la moufette.
Dans le fond, on dit souvent, on appelle ça un aspect moufette, un goût moufette. En fait, c'est surtout plus à l'odeur. Ça va nous rappeler l'odeur un peu de l'urine de moufette. C'est une odeur qui est comme soufrée. Ça sent soufre un peu.
Ça donne vraiment le goût.
Non, mais vous l'avez aussi chez la Grudge qui était récupérée par les grandes brasseries, mais à l'époque, qui était une micro, là, aussi.
Oui, bien, la Grudge, c'est un produit plus européen, là, mais là, oui, Astor, avant, il était peut-être plus indépendant, là, mais avec l'expansion des grosses brasseries comme la Bad, Budweiser, puis là, on parle de Sleeman ou autre, Sapporo, qui ont tous fait des conglomérats, ils ont absorbé les petits, puis là, ils ont grossi. Là, on en retrouve un peu partout de la Grudge. Mais fait que, au nez, ça va sentir un peu plus, fait que ça va rappeler un côté un peu, une odeur soufrée. C'est pas super intense, là. C'est pas comme à côté d'un gaz propane ou d'un volcan. Ça sent le souffle à plus finir. J'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui ont été à côté d'un volcan non plus, mais c'est ça que ça ressort souvent comme odeur. Mais au goût, c'est plus discret. Moi, je dirais que ça apporte un espèce d'aspect un peu comme minéral, slash un peu peut-être rustique, comme semblable à un petit côté rustique dans certaines bières fermières. Mais c'est surtout plus l'aspect minéral que ça va rappeler en bouche, là, légèrement.
Oui, puis si tu me permets, c'est ça, dès que l'effet du soleil que tu as dit avec justesse tantôt, bien, on peut le vivre aussi même parfois avec les bières de bouteilles transparentes. Mm-hmm. Tu vois, une Corona, par exemple, va pouvoir développer aussi un effet skunky, mais les bouteilles vertes, elles…
C'est fait pour ça.
C'est fait pour ça. Ouais. Puis écoute, comme on disait à l'époque, certains vins goûtaient la selle de cheval ou la tu sais, on associe des goûts au cuir, on associe des goûts, mais c'est pas de, tu sais, je sais qu'on n'est peut-être pas des super bons vendeurs de bière lorsqu'on parle de grumeaux et de moufettes, mais c'est vraiment pour bien saisir un peu.
Et de fumier de cheval non plus.
Et de fumier de cheval
Est-ce que vous avez déjà goûté des bières brettées avec la jus de Brettanomys, la levure Brettanomys à l'intérieur?
Ça, c'est...
La Brettanomys, en fait, c'est une levure rustique, justement, indigène, qu'ils vont mettre dans la bière, qui va donner un aspect cuivré.
Cuivré.
Qui va donner un aspect cuir et qui va donner un aspect un peu foin, un peu à l'affût. Là, un peu à l'affût, les produits d'à l'affût, ils ont beaucoup de bières brettées. Un peu festival western de Saint-Tite, là, quasiment, là, dans la bière. Là. Exactement, mon frère. C'est ça, ça goûte le cheval, là. Ça goûte l'animal, vraiment.
Si vous allez à Amsterdam, moi je l'ai fait, là, on peut visiter la première brasserie Heineken, qui est un peu comme visiter la première brasserie Molson ici. C'est des brasseries qui se sont construites en plein centre-ville. Puis à un moment donné, c'était plus efficace au niveau des transports. Ils n'étaient plus capables de faire sortir la bière, puis c'était à l'époque des chevaux, tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant d'aller voir une grosse brasserie commerciale qui a commencé petite, parce qu'on les voit toujours grosses, les
Budweiser. C'est ça, faut pas les oublier, là. Faut pas oublier qu'ils ont commencé.
C'est ça.
On commence tout à quatre ponts.
Aussi en Europe, si on peut appeler ça de même, la route de la bière, c'est ancestral, la bière, là. On est encore un jeune pays, qu'on le veut,
Oui, oui, totalement.
Le jus de céréales, à mon avis, toi, Jean-Guy, toi qui sais tout, le jus de céréales, la bière comme telle, ça date d'avant Jésus-Christ, c'est de l'Égypte,
mon premier breuvage, c'était le lait, pour te dire.
Ben, j'osais pas. J'ai failli te poser la question si quand t'étais petit, la bière existait, puis je me suis retenu.
J'avais commencé avec le lait auparavant.
mais c'est. Stéphane a raison. Les pays européens. C'est la place principale où ce que la bière s'est vraiment développée, surtout au niveau du Moyen-Âge, durant le Moyen-Âge. Mais ça remonte à très longtemps. Là, je pense que les Égyptiens faisaient de la bière là, dans l'Antiquité. Là. Donc,
exact. Ce qui était très, très, très différent de la bière d'aujourd'hui. Non, c'est ça. Là.
Puis même au Moyen-Âge, souvent, puis on parle un peu plus tard, puis peut-être dans les années 1600, 1700, le contrôle des levures était beaucoup moins possible que maintenant parce qu'il n'y avait pas autant d'analyse des parce que l'analyse scientifique des organismes s'est faite peut-être un peu plus tard. Puis là, il était moins au courant de OK, pourquoi qu'au début ça part comme ça avec on mélange de l'eau, de la céréale puis d'autres ingrédients. Puis là, au final, ça nous donne un produit qui goûte carrément différent. Là, on remonte peut-être au Moyen-Âge.
Je ne sais pas si vous connaissez Les Piliers de la Terre, qui est un livre sur l'apparition des premières cathédrales. Les grosses. Puis justement, c'est dans lorsqu'il raconte l'histoire des gens qui revenaient au champ, des champs, puis tout ça. Puis ben, on voit bien l'apparition des bières des bières de session, là, des bières qui. Ils le décrivent bien là, à cette époque-là.
Ouais.
C'est avant le Moyen-Âge.
Oui, puis je pense que la particularité des bières avant, qui date des très, très, très avant aujourd'hui, c'est le côté sûr des bières, en fait. Les bières étaient souvent acidulées à cause, justement, qu'il y avait moins de contrôle sur la bière. L'air peut infecter, l'eau peut retrouver beaucoup le côté sûr dans les bières. Là. Donc, c'était comme une bière normale. Là. C'était comme une Budweiser, une Labatt là-bas. Là, c'était des bières sûres, là. Les cervoises et tout. Là, ça, c'était très intéressant. Là.
Parce que eux autres, ils faisaient fermenter ça plus souvent qu'autre chose, dans des contenants qui étaient soit moins hermétiques ou qui étaient carrément à air ouverte. Fait que là, les bactéries ambiantes, s'inoculait elle-même dans la bière. Voilà. Fait que là, on parlait de levure sauvage tantôt, la Brettanomyces, mais aussi certaines sortes de la Saccharomyces, qui est à cette heure la levure typique pour la bière. Il y a plusieurs branches de Saccharomyces. Mais puis il y avait aussi des fois des lactobacilles, des bactéries lactiques, des trucs du genre qui sont utilisés présentement pour faire des bières sûres souvent. Bien, ces bactéries lactiques-là, ils étaient aussi dans l'air, puis ils se retrouvaient dans... Fait que,
exactement
comme Charles disait, les produits, souvent, ils étaient peut-être un peu plus acidulés ou des produits un peu rustiques. Puis là, avec le travail des brasseurs, le développement un peu technologique et scientifique, les connaissances se sont approfondies au niveau de ces micro-organismes-là. Donc, le contrôle est arrivé quand même beaucoup plus tard. Fait que, mais il faut se rappeler que beaucoup des styles qu'on a ici en Amérique du Nord, en Amérique tout court, surtout en Amérique du Nord, en fait, viennent des colons d'Europe. Fait que les styles allemands qui ont été prédominants dans les premières années, les styles belges aussi. Puis la star, ben là, avec l'histoire, les Américains ont dit « Hey, on a des houblons typiques qui poussaient là-bas aux États, puis on va prendre nos houblons, puis on va faire nos styles à nous autres. » Fait que là, toute une grosse évolution à travers tout l'univers de la bière.
Ah ouais, il y a une belle histoire autour de la bière.
Oui, mais le Indian Pale Ale, c'est ça un peu, c'est le mûrissement sur bateau de...
Exact, c'est pour les troupes britanniques en Inde, en fait, pour qu'ils puissent continuer à boire de la bière, en fait. Ouais. Maintenant, on saute sur la bière sûre du temps d'une pinte, donc la Rosie. Déjà là, à l'œil, on voit qu'on a un aspect complètement différent. La Cubicus, qui était beaucoup plus sur les fruits tropicaux, maintenant, on est sur les petits fruits. Donc, on est vraiment sur l'aspect plus rosé, un peu rouge, quasiment mauve aussi. Là, donc,
là on est en été. Là.
Exact, totalement. Là. Mais ouais, avec la journée d'aujourd'hui, ça fit. Là.
Ça s'y prête.
Oui, exact. Déjà, au nez aussi, on a un aspect beaucoup plus petit fruit, là. Donc, bleuet, framboise, etc., qui va ressortir le plus dans la bière.
Moi, je sens surtout comme la framboise et le cassis.
Ouais, le cassis, oui. Ah non, ça sent très, très bon. Donc, encore là, on va avoir le petit aspect acidulé là, de la bière, là.
Ça, dis-moi donc, est-ce que c'est des... Puis je dis ça sans faire de gros préjugés sexistes, là. Mais sais-tu des bières qui vont aller chercher, qui cherchent plus à aller chercher une clientèle, disons, plus féminine qu'une clientèle masculine?
Moi, je dirais que ça... Non, c'est très... c'est très 50-50. C'est sûr que les personnes qui étaient plus habituées de boire, par exemple, de la Smirnoff, des Pombay ou des cocktails, des cidres, etc., vont être plus portées à aimer les bières sûres ou le vin, comme tu as dit tantôt. Mais j'ai eu beaucoup de mes amis qui ont débuté la microbrasserie avec les bières sûres. Puis ce qu'ils aimaient, c'est le côté sûr, le côté vraiment fruité. Fait que je dirais, ça va chercher... parce que les goûts, c'est dans la nature, c'est tellement vague. Donc je dirais que c'est un 50-50, là, tout dépendant.
La couleur peut laisser présumer ça, mais,
oui.
Mais au goût, c'est pas un sirop. Là. C'est pas
une confiture
qu'on boit. Là.
Exact. Non, c'est ça. Là. T'as quand même une belle complexité dans la bière. Un bel aspect fruité, un petit aspect citronné, le côté sûr, une bonne effervescence encore là dans la bière qui va ressortir. Donc, c'est très, très intéressant.
Moins sûr que la Cubicus.
Oui, ben, peut-être c'est l'habitude aussi.
Surette, là, la Cubicus, elle avait une petite coche de plus.
Peut-être c'est l'habitude. Peut-être si on avait bu la Rosie avant, là, on aurait fait « Ah, la Rosie est plus sour ». Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression que la Rosie est un petit peu moins sour que la Cubicus. Là.
Moi, je pense que je comprends ce que tu veux dire peut-être parce que la Cubicus, on goûtait l'effet sûr. Puis ensuite, on trouvait le fruit, on dirait.
Exact.
Tandis que celle-là, on attrape le fruit en premier, puis après ça, on sent le sûr.
Oui, effectivement, là, c'est l'inverse.
Là, je joue aux experts. Là,
non, mais c'est vrai, non, c'est raison, une belle remarque. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'aspect céréal, l'aspect blé, un petit peu qu'on retrouvait dans la Cubicus, est beaucoup plus subtil dans la Rosie.
On le sent pas.
Exact. On le sent pas. Donc, c'est...
Tu es une sorte de psychologue de la bière.
Oui, c'est ça. In vino veritas, qui dit. Ouais. Puis d'ailleurs, tantôt, on parlait des mousses, puis je me suis retenu de ne pas le dire, mais Il y a une grande question par rapport au stout, que c'est comment une bière si noire peut donner une mousse si blanche. Puis la légende veut que c'est à la 12e Guinness que tu, habituellement, que tu trouves la réponse.
Ah! À la 12e Guinness! Bon. Ça va être un concept au podcast. On va l'appeler on réalise la 12e Guinness. Donc, on va boire 12 Guinness puis on va voir.
Oui, puis aujourd'hui, quand tu veux faire ton psychologue, tu reçois avec de la bière de micro chez vous, ça fait plus... les problèmes se règlent plus doucement.
Ah oui? Est-ce que ça fonctionne pour les conseils de ville aussi, selon toi? Ou... Ah, là,
tu as plus d'expérience que moi.
On rentre pas là-dedans. Là-dedans, on va y aller.
Ça va être beau, merci Jean-Guy. Toi, tu t'en vas, moi je reste.
On a dit à 4e bière.
Ouais.
On va faire un after show puis on va continuer.
Moi, j'aimerais savoir l'opinion de Jean-Guy pour est-ce que vous aimez ça? Et deuxièmement, est-ce que ça vous rappelle un peu peut-être certains vins, parce que vous m'avez dit tantôt que vous aimiez quand même bien le vin, fait que j'imagine, peux-tu rappeler un peu des aspects vin rouge peut-être ou des rosés?
La différence est dans l'amertume ici, là. J'ai beaucoup plus vin rouge que vin blanc. Je ne retrouve pas cette amertume-là, là. Puis je ne retrouve pas non plus l'effervescence, là, tu sais. Un vin, c'est plat.
C'est capitonneux un peu. Hein,
oui, exactement, c'est ça. Donc, non, je vois pas, je fais pas de lien du tout entre les deux. Là.
Okay.
Par contre, je découvre, je sais pas boire de la bière, moi, là, c'est aussi simple que ça. Là. Mais... Puis là, je suis en train de l'apprendre. Alors, je suis bien content parce que c'est vrai que c'est une belle alternative à d'autres boissons. Et puis, c'est excellent, c'est enrichissant.
Ça, puis on voit aussi, ce qui est le fun, c'est que c'est deux styles similaires, c'est deux sour, mais deux bières complètement différentes quand on les goûte, là, totalement. Là. On retrouve l'aspect sour, mais dans les aromatiques, dans le corps, c'est très différent. Là,
oui, c'est très différent.
Ça fait des années que je n'en ai pas bu, puis je me souviens, à l'époque, avant qu'ils vendent de la bière là, à la Société des alcools, ils en tenaient ce qu'on appelait les gueuses.
Ouais.
Est-ce qu'on est... De mémoire, il me semble qu'une gueuse, c'était sûr.
Oui,
hein?
Oui, exactement. Ouais, des gueuses, d'ailleurs, on a goûté une, moi puis Martin, qui nous venait directement d'une microbrasserie de la Belgique, c'est ça? Oui. Une microbrasserie qui avait plus de 100 ans d'expérience. Puis c'est ça, les gueuses, on retrouve cet aspect-là plus sour, sauf que souvent dans les gueuses, il n'y aura pas d'ajout de fruits. Ça va être vraiment plus citronné, un petit peu plus rustique comme bière, là, mais c'est très, très bon. Il y a une microbrasserie, ici, au Québec, les Trois Mousquetaires, à Terrebonne, à Brossard. Là, je me trompais avec Mélile, là, encore une fois, Mélile qui est dans ma tête tout le temps, mais ouais, à Brossard. Puis, ils font une gueuse qui s'appelle « Ceci n'est pas une gueuse ». Donc, si ça vous intéresse de boire un style qui ressemble beaucoup aux gueuses, ils sont très forts, donc n'hésitez pas à essayer ça. Là. Mais c'est une autre expérience, ça vient chercher, surtout la « Ceci n'est pas une gueuse », là, si vous êtes moins amateur de ça, là, elle vient chercher là, vraiment les joues. Là.
On a des podcasters là, qui s'impatientent ici. Là. J'ai Coslamy qui veut savoir immédiatement. Trois-Rivières ou Bécancour sur les deux premières bières?
Ah oh, ben là!
Je pense qu'il y en a qui veulent voir
mais
du sang.
Je pense que par respect pour la visite, on ne devrait pas répondre à cette question.
Oui, parce qu'on est en majorité numérique, là, supériorité numérique.
Je vais m'abstenir.
Enfin, politicien.
J'ai un conflit d'intérêts.
Ouais, on voit que le chat, il s'ennuie un peu. Ils veulent du...
Ils veulent sa mort.
C'est deux bières qui sont vraiment... je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Outre la couleur, là, dans le reste, ils ont la même sensation, la même amertume ou à peu près. Là, en tout cas, moi, je ne vois pas beaucoup de différence entre les deux à ce chapitre-là. Alors, c'est deux très beaux produits.
Là.
Oui.
Ouais. Ils sont complémentaires. Hein?
Oui, c'est ça. Puis c'est un peu plus l'acidité. L'amertume est moins présente. C'est plus l'aspect vraiment acide, surette qu'on dans ces produits-là. C'est vrai que des fois, il y a peut-être un peu d'amertume qui ressort. Là. Mais les deux prochaines bières risquent d'être un petit peu plus amères, là, sans exact. Tomber dans quoi d'excessif non plus. Mais puis je voulais revenir à ce que tu as dit tantôt, Jean. Tu disais que tu n'étais pas un expert, mais qu'est-ce qui fait d'une personne un expert? Bien, c'est quelqu'un qui a une habitude, qui a une expérience. Fait que moi, je me dis, tout le monde peut devenir expert. Il s'agit de prendre le temps de goûter, puis mais de s'arrêter aussi, puis d'analyser un peu plus le produit. À place de juste, comme j'écoute la TV, puis je bois une petite gorgée de temps en temps, sans trop m'en soucier, bien, c'est de prendre, de sentir, d'essayer d'analyser qu'est-ce qu'on sent, de prendre une gorgée, d'essayer d'analyser qu'est-ce qu'on goûte, comparer ça avec des produits. Souvent, on parle de « Ah, ça me rappelle un petit côté fruité, un peu la cerise. » Fait qu'on compare avec des fruits. Une fois, on boit des bouteilles rousses, puis on dit « Ah, je trouve que c'est comme caramélisé. » On compare ça à du caramel, carrément. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup... Le monde, souvent, parce que tout le monde commence par manger dans sa vie, puis après, quand ils ont l'âge légal pour boire, ils essayent des alcools, des bières, des vins, des forts. Ils vont comparer les saveurs de ces boissons-là à des produits alimentaires plus souvent qu'autre chose, parce que qu'est-ce qui est le plus facile de faire un lien avec. Et souvent, ben des fois, c'est parce qu'il y a carrément dans la bière, il y a du fruit carrément, ou il y a dans certaines bières que c'est les aspects chimiques qu'il y a dans la bière qui vont rappeler un goût de fruit ou un goût un peu fumé ou un peu plus sucré. Puis,
tu fais bien de le souligner parce que je trouve que c'est vraiment rendu là quand on finit par faire une appréciation, les découvertes vraiment du produit, que c'est là que le monde de la bière de microbrasserie devient le fun à découvrir. Là.
Puis, pour revenir à la question de monsieur... moi, je pense que quelqu'un, un consommateur de Cubitus viendrait vous voir, puis vous pourriez lui suggérer une rosie. Puis quelqu'un qui boit de la rosie viendrait vous voir, puis vous pourriez lui suggérer, parce que il y a une famille, là. Il y a une question de...
Exact. On va créer leur collaboration. Ils vont regarder le podcast, on va faire une collaboration.
Oui, puis d'ailleurs, dans les commentaires, si vous me permettez, on a Hyacinthe qui dit que il est fier de son maire, un gars de Trois-Rivières. Vous avez compris, M. Dubois, qui est fier de son maire. Puis j'ai demandé, est-ce que ton vote pour le 7 novembre prochain? Il m'a dit oui. Fait qu'on a déjà un vote de canet pour le 7 novembre prochain. C'est bon.
Un vote, une bière. Je pense que ça peut faire un bon slogan.
Un vote, une bière.
Ça fait du plessiste un peu, là, vous allez me dire.
Ah, j'étais pas né, moi.
Vous arrivez avec la preuve, puis on vous donne une bière à chaud.
Mais les gens apprécient beaucoup les commentaires des deux maires. Puis le fait qu'on n'est pas des experts, ça permet d'échanger, puis de... justement, de garder ça groundé, je ne sais pas si je m'exprime bien, là, mais garder ça groundé de, je vais dire, monde ordinaire, j'aime pas l'expression, là, mais tu sais, on n'est pas des brasseurs personne, on est capable d'apprécier ce qu'on goûte, même si on ne connaît pas ça.
Si tu me permets, Stéphane, quand on a parlé de faire ce podcast-là, puis avec notre attaché politique, Samuel, chez nous, Samuel Gervais, on a tout de suite pensé à Jean-Guy, puis à inviter Jean-Guy, parce que moi, Jean-Guy, je l'ai connu dans différents aspects de ma carrière, et notamment lorsqu'on a célébré les 50 ans du Pont La Violette, je suis allé voir Jean-Guy Dubois pour lui demander s'il voulait participer. Puis il a dit oui tout de suite, puis ce qui est intéressant, tu peux participer, faire un chèque, puis le donner, tu sais. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Jean-Guy a embarqué, il a ramassé des anecdotes, il est allé chercher des gens qui pouvaient aussi ajouter au contenu. Puis quand on parle de Jean-Guy Dubois, puis les gens le reconnaissent, ça, cet aspect-là, c'est que Jean-Guy, il dépasse largement le cadre du politicien standard. C'est un gars qui arrive souvent avec un aspect philo, un aspect socio. Il va souvent avoir du recul par rapport à certains sujets qui va permettre de faire avancer la réflexion. Fait que d'avoir un gars comme Jean-Guy Dubois comme voisin d'en face, ben moi, je suis bien fier. Puis, regarde, Jean-Guy, je sais que tu es en train de préparer ton élégante sortie, mais c'était un plaisir d'être avec toi tout ce temps-là. Puis, j'espère que ça va continuer, ne serait-ce que si tu m'invites à ta cabane à sucre.
T'es en train de faire ma journée.
Toi, ouais, il s'est échangé un 20$ à quelque part.
D'après moi, là, Jean-Guy, si tu changes d'idée, puis Jean s'en va rester à Bécancour, va voter pour toi.
Tu viens de te gagner une coupe de canne de sirop, là, c'est sûr.
Mais quand on a fait après ça, on a débriefé l'activité des 50 ans du Pont La Violette, et puis on avait un souper, Et puis Jean-Guy nous avait donné une bouteille de sirop, puis je l'avais refusé parce que je le faisais dans le cadre de ma job. Puis il était fâché. Il était fâché que je prenne pas. Puis il a fallu que je t'explique que je pouvais pas prendre de cadeau. Tu vois, oh non, une bouteille de sirop, c'est pas. Puis on a vu cette soupe, ça en était devenu. Je pense que je suis content de l'avoir refusé parce que ça nous a permis d'avoir d'en rire après.
Oui, c'est ça. Ça, à Bécancour, c'est sûr qu'il y a la dimension érable aussi là, qu'on n'a pas touché. Mais à un moment donné, ça va nous donner l'occasion de faire un autre podcast pour voir de quelle façon on peut marier l'érable et la bière.
Ben, ouais, mais à l'affût, une excellente British à l'érable.
Ah, oui, ouais, la British à l'érable, qui est une brown, qui est une bière brune à l'érable, justement, avec de la noisette à l'intérieur. Fait que ça, c'est très intéressant.
Mais même avec la bouffe, oui, c'est vrai que...
Non, mais vous lancez, moi... Vous... Oui, mais vous le lancez, puis on va faire un podcast numéro 2 avec vous sans problème, là, puis on va essayer justement dans le temps des sucres, là, vous allez nous apporter justement vos sirops d'érable.
Ou puis, tu l'as fait, mettons, une couple de semaines avant les élections, puis là, je vais faire un post sur Jean. Faire ce mot aujourd'hui. Ouais. Là, ça serait, le timing serait peut-être bon.
Ce serait bon, oui, exact.
Je voulais te corriger, Charles. Dans la British, il n'y a pas de noix. Il n'y a aucune noisette. C'est vraiment juste la céréale, la façon qui est maltée, qui est cuite, okay. Qui donne le
c'est
goût
parce
noisette.
Qu'il écrit sur la canette aux
il
noix.
Il écrit brune aux noix, mais il n'y a pas de noisette. Parce que la plupart des brasseries, s'ils mettraient des noisettes dans leur bière, ils viendraient de se couper une grande partie de clientèle parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont allergiques aux noix. Ah ben oui. Fait que souvent, on va voir ça dans les bières brunes de type anglaise. Un goût de noisette, de noisette rôtie, grillée. Mais c'est seulement la céréale qui apporte ce goût-là. La façon que, justement, la céréale est comme maltée, ce qui est la cuisson de la céréale. Rappelle vraiment ces goûts-là. Mais on voit à l'occasion
mais
certaines
ça, brasseries... La chimie des saveurs, là, puis c'est tellement... C'est passionnant parce que...
Ah, c'est incroyable.
C'est justement, puis ça ramène à notre référent. Puis les gens disent, ça goûte les noix. Non. Il y a quelque chose là-dedans, puis il y a quelque chose dans les noix qui se
exact.
Regroupe, tu sais. Fait que ça goûte pas les noix, ça goûte quelque chose dans les noix.
Ben c'est exact.
C'est ça qui... En tout cas, moi... Ce monde-là, je le trouve passionnant.
Ah, c'est fou, c'est fou.
Je pense
que
la cuisine moléculaire exploite beaucoup cet aspect-là dans la chimie, dans la nourriture. Et puis, il y a plein de combinaisons qu'on peut faire avec des aliments, des fruits ou même des bières et des aliments qui vont faire ressortir des saveurs qu'on n'a pas d'un bord ou de l'autre. Mm-hmm. On parlait d'érable. Il y a un champignon qui s'appelle l'actère à odeur d'érable. Ça goûte et ça sent le sirop d'érable. C'est comme si on prenait une cuillère de sirop d'érable carrément.
Champignon mort, c'est un peu ça aussi.
C'est des rassemblements de goûts qui font en sorte que, on a l'impression que ça goûte ça. Parce que notre langue, il n'y a pas une partie de la langue qui dit « OK, ça c'est l'érable ». C'est les quatre sens, puis ça fait en sorte que à cause des goûts, ben
l'intensité d'un aspect plus qu'un autre,
va
puis
donner,
c'est aussi que la papille va détecter un élément chimique qui va faire comme envoyer tel ou tel signal au cerveau, puis le cerveau l'interprète comme « Ah, ça, c'est du sirop d'érable ».
Exact.
C'est pareil pour les couleurs, c'est pareil pour le son, la couleur, c'est la lumière qui nous permet de voir les couleurs. Il n'y a pas une lumière, une partie de la lumière qui est telle couleur ou une partie de la lumière qui est telle couleur. C'est différentes grosseurs d'onde. Puis l'onde qui est plus petite, ben c'est rouge. Puis l'onde qui est un peu plus grande, ben là, à la place, est verte ou est bleue. C'est de la façon que nos yeux l'analysent. Fait que comme Jean le dit, c'est vraiment notre perception. Relatif à ces aspects chimiques-là qui vont nous apporter les goûts. Donc, oui, on peut retrouver des fois des goûts qui vont dire « Hey, ça goûte la noix, ça, sans qu'il n'y ait aucune noix dedans. »
Puis c'est exactement pour ça qu'il y a des gens qui aiment des choses et d'autres qui n'aiment pas parce qu'on est tous différents puis notre langue a des sens peut-être plus développés que d'autres. Fait que ça fait en sorte que « OK, moi, j'aime vraiment ça quand l'érable. Moi, j'aime pas ça parce que c'est trop sucré. » Ou c'est là qu'on voit la différence vraiment entre les goûts, là.
Allez me permettre, je suis en train de lire
la petite Floride.
La description de la petite Floride, la prochaine bière, que je connaissais déjà pour lui avoir goûté auparavant, délicieux avec du filet de perche chaude, du clé des brasseurs en passant. Là. C'est merveilleux. Très bon mix bière et repas. Je vois le taux d'alcool parce que c'est Kiri bière forte.
Oui. Okay?
On me l'a décrit comme une bière de soleil, que c'est le fun sur le bord de la plage. Mais là, après ça, on vient me dire une bière forte était quand même
en
à 6,7.
C'est parce que le standard, en haut de 5%,
ouais,
on est
c'était ma
obligé.
Question. À partir de quand on dit que c'est une bière 5%, forte?
5%, oui.
Je pense que c'est 5,5.
Ah, c'est
5,5 et plus, c'est considéré comme une bière forte.
Tu es obligé d'écrire bière forte.
Ah, OK.
Ouais.
Okay.
7,5 et plus, c'est bière extra forte. Puis en bas, à 7,4 et moins, c'est bière légère.
OK.
Yes. Donc, on va déguster directement cette bière Petite Floride. Déjà, comme je vous avais dit, là, la couleur très opaque. On a vraiment, on dirait un jus pratiquement. Là.
Comme puis, le fleuve. Couleur fleuve, j'appelle ça.
Puis, on a des teintes qui s'apparentent un petit peu à la Cubicus. Elle est plus opaque, par exemple. Là, on va voir qu'il va avoir un corps un petit peu plus développé juste à la couleur. Mais on a l'aspect un petit peu plus pêche, je pourrais dire. Là. Ça ressemble à un ananas pêche qu'on retrouvait dans la Cubicus aussi. Là. Donc, Chin. Notre première IPA
bon
de la soirée.
Vendeur,
ah ouais, oui,
c'est
la, ah oui, la, ça la, c'est...
Là.
Et on le goûte l'ananas dedans.
Je pense que c'est leur plus gros vendeur au Quai des Brasseurs. Ils sont rendus avec des 6 packs qu'ils vendent. Là, mais c'est parce qu'elle est bien faite. C'est un petit jus, là, carrément. Là.
Ah, c'est... Mais elle a quand même une belle amertume. Là. On
moi,
le sent. Là, que... Puis l'ananas, on sent le goût de l'ananas aussi.
Bien épaisse.
Oui, c'est ça. Ça, c'est ça,
plus onctueuse, oui.
Mais j'essaie de faire la différence entre les deux premières. Où il y avait un goût d'amertume qu'on sentait très bien, un goût citronné.
Oui, citronné.
Celui-là, c'est pas ça qui ressort.
Ça, c'est le pamplemousse.
C'est
hein?
un autre saveur qui va plus loin dans le palais.
Oui.
Qui est juste.
Ben, en fait, les IPA, c'est une IPA, donc Indian Pale Ale, c'est le style qui font l'ajout de beaucoup, une grande quantité de houblon. Les houblons, ce qui va donner l'amertume dans la bière. Donc, le côté oak, le côté vert, le côté résineux, un petit peu gazon, si je pourrais dire, et parfois aussi fruité. Donc, dans le cas de la Petite Floride, parce qu'il y a plusieurs styles de houblons. Il y en a énormément. Puis, il y a des houblons que dans l'aromatique, on va ressortir un goût très fruité. Donc, oui, dans la Petite Floride, on a des notes de fruits tropicaux encore là. On a des notes un peu pêche, un peu fruit de la passion qui va ressortir. Mais c'est pas, il n'y a pas d'ajout de fruits zéro dans cette bière-là. C'est vraiment le houblon qui va ressortir cet aspect-là dans la bière, qui va lui donner la couleur aussi. Puis, comment qu'on peut aller rechercher parfois cet aspect-là dans la bière? C'est avec le DDH, le double dry hop. Si vous voyez ça sur une bière, souvent les New England IPA, donc c'est des bières plus fruitées. Donc, Jean, il l'a mentionné tantôt qu'il aimait beaucoup les New England IPA. Donc, dans les New England IPA, souvent, on a un dry-up, donc un houblonnage à froid. Ça, c'est quand on va rajouter les houblons durant la fermentation de la bière. Ce que ça va faire, c'est qu'on va aller chercher, on va laisser l'amertume de côté, puis on va aller chercher vraiment tout l'aspect aromatisé du houblon. Donc, si le houblon il est plus tropical, on va aller chercher un aspect beaucoup plus tropical. Si le houblon il est plus floral, herbacé, on va aller chercher vraiment un aspect herbacé et floral.
Ça okay. En est une New England, ça, d'ailleurs. Ça,
ouais,
c'est ouais. Une juicy, là.
Oui, exactement.
Ça en est une New England.
Oui, une New England IPA, mais juste à la teinte, là. Exact. Juste à la teinte, là, les New England IPA, surtout à la couleur, on peut les distinguer des West Coast. Les West Coast, quand on les regarde, les West Coast, en fait, la différence entre les New England et les West Coast IPA, les New England sont beaucoup plus fruités, un petit corps de plus aussi, je trouve, et les West Coast sont beaucoup plus amers, c'est beaucoup plus forêt, légèrement malté aussi. Donc, la différence entre les couleurs, c'est que là, on va avoir un aspect un peu jus d'orange. Puis les West Coast, on va avoir un aspect un petit peu plus ambré dans les West Coast. Il va être beaucoup moins opaque, plus light.
Le nouvelle, là, parce que je suis allé vendredi au Quai des Brasseurs là, et j'ai goûté, ils ont une nouvelle bière qui s'appelle La Brumeuse. Je pense que, Jean, entre autres, là, ça tomberait dans ta palette si t'aimes beaucoup celle-là, la petite.
Je pense que ton micro il est désactivé, là, papa, par exemple.
J'ai Hyacinthe qui a une question. Il se dit étonné par la différence d'indice d'amertume entre les deux bières, l'IBU pour les professionnels, là, entre les deux bières du Quai du Brasseur. Il dit, pourtant, il dit, c'est comme deux bières sour. Pourquoi qu'il y a tant de différence que ça dans au niveau de...
Attends, il parle des deux bières du Quai des Brasseurs?
Oui, il parle de la différence entre la
Cubicus et la petite Floris.
Puis la petite Floris.
Ben, c'est pas deux bières sour. Première des choses, mon Hyacinthe, c'est une IPA et une sour. Donc, c'est là la grosse différence. Puis aussi... dans la petite Floride, je pense qu'il donne un 60 IBU sur l'indice d'amertume. Puis c'est là qu'on voit vraiment que l'IBU, International Bitterness Unit, c'est vraiment la microbrasserie. C'est son opinion personnelle. Parce qu'il n'y a pas de machine qui définit l'IBU d'une bière. C'est vraiment la microbrasserie qui vont définir ça. Donc, c'est à chacun. Une microbrasserie pourrait dire « Ah, il y a 112 IBU », l'autre pourrait dire 70, puis tu as l'impression que la 70 est plus amère que dans l'autre microbrasserie. Fait que c'est vraiment... pour chacune des microbrasseries, ça peut être très différent. Donc là, on parle d'un 60 IBU. Habituellement, là, c'est entre 1 et 140. Nous, on peut goûter entre 120 et 140. En haut de ça, notre palais humain n'est plus capable de détecter. C'est comme trop.
C'est pas agréable.
Exactement, exactement. C'est qu'on va juste goûter l'amertume. Ouais. Donc, 60,
ça,
c'est quand même...
Ça plafonne à 140.
Exact.
Ça pourrait être une bière qui est marquée à 2000 IBU. Tu vas juste être capable de détecter le 140 IBU.
Exact. Donc, 60, c'est une amertume assez... ce qu'on voit relativement souvent dans les IPA. Mais c'est vrai que grâce à l'aspect, le côté un petit peu plus onctueux, grâce à l'aspect tropical de la bière, on dirait qu'il est un peu plus doux. Alors, c'est pas une bière qui va venir chercher vraiment le côté angle, côté en pamplemousse. Oui, on va avoir un aspect pamplemousse, mais c'est pas une amertume tranchante là non plus.
Du côté sensation, je sais pas si je me trompe, mais ça me fait un petit peu penser à la bière blanche. Les bières blanches, pas au niveau
du agrume, à cause de l'agrume.
Tu le prends, c'est en tout cas, l'expression qui est bourrative un petit peu plus, ouais. La bière blanche, là, j'ai cette impression-là de vivre avec cette bière-là, cet élément bourratif-là qu'on ressent dans la bière blanche.
On a un corps beaucoup plus onctueux. Là.
Ouais, même, c'est ça, même dans la texture du liquide, hein, c'est un peu ça aussi.
C'est ça qui ferait que une bière est bourrative, là, c'est la texture.
Ben, c'est sûr que la texture... Comme dans, si on boit une bière noire, on va avoir une texture beaucoup plus onctueuse. C'est sûr que ça va donner cet aspect-là bourratif un peu. Il y a aussi l'effervescence. Les bulles dans la bière vont donner l'impression de gonfler aussi beaucoup plus. Hein. C'est pour ça que boire des bières rapidement, ce que je vous conseille pas, mais ça va finir au boire énormément de bières de microbrasserie. Ça va finir par dire, OK, là, c'est lourd. Là, je serais pas capable de manger un repas au complet là, parce que ça, l'effervescence va rajouter un côté ballonné aussi.
Cette bière-là, pour appeler l'expression, est plus lourde.
Oui, elle est plus lourde.
C'est moins une bière de terrasse que les deux premières qu'on a bu.
Oui, je suis d'accord.
Oui, ouais, ouais, c'est une belle remarque. Là, c'est vrai que... Oui, vas-y, Martin.
Moi, dans le fond, M. Dubois, qu'est-ce qu'il disait? C'est, il comparait ça à des bières blanches. C'est à cause, je dirais, surtout du blé. Parce que la particularité des... Qu'est-ce qui fait qu'une bière blanche est une bière blanche? C'est qu'il y a 40 à 60 de toute la céréale qui est utilisée, qui est du blé. Donc, souvent dans les New England IPA, le type, les IPA de la Nouvelle-Angleterre, le type d'IPA qu'on boit en ce moment, pour rajouter cette opacité-là au look et cette texture-là de plus en bouche, ils vont rajouter... oui, de la céréale de blé, mais aussi parfois même de la céréale d'avoine. Soit un ou l'autre, ou même parfois les deux, qui se rajoutent à l'orge qui est utilisée quasiment tout le temps dans les bières. Donc, oui, la céréale d'avoine et la céréale de blé donnent un aspect plus... sont plus lourdes en bouche, donnent un aspect plus texturé. Puis, comme Charles disait aussi, l'effervescence joue un rôle un peu sur l'aspect bourratif. Parce que si la bière, déjà, est un peu plus bourrative, mais si en plus elle a une bonne effervescence, le gaz vient prendre la place encore aussi dans l'estomac. Donc, on a l'impression qu'on est plus plein. Puis, oui, effectivement, là, comparé aux bières sûres qu'on a bu tantôt, la texture qui est plus pesante, plus lourde, qui, à, qui est dû à les sortes de céréales utilisées, va donner un effet plus bourratif. Là.
Puis on sent plus l'alcool aussi. Là. C'est l'alcool sûr qu'il y a une différence de pourcentage d'alcool. Plus chaleureux, puis en descendant, comme dire, on le sent. Là.
Ouais.
Le taux de glucides aussi va jouer un peu sur l'aspect bourratif.
Là. C'est là qu'on voit vraiment le côté, pourquoi on dit que c'est des bières de dégustation. C'est là vraiment qu'on voit, tu sais, c'est très différent des bières commerciales parce que les bières commerciales, c'est plus effervescent, ça se boit beaucoup mieux, c'est plus sec, rafraîchissant, si je pourrais dire. Tandis que les bières comme de microbrasserie, il va avoir une complexité de plus, une lourdeur de plus, des aspects qu'on va découvrir aussi quand on va boire. C'est pour ça que c'est bon de déguster les bières de microbrasserie. C'est comme Martin a dit tantôt, prendre le temps d'apprécier.
Pour faire une image, là, on voit ça des fois, là, pas que je l'ai faite, mais tu fais un petit trou dans le fond de ta canette, puis que tu rouvres la tape. Avec ça, tu fais pas ça. Là.
Des shotguns qu'on appelle dans
le
milieu.
Non, shotguns, je sais pas c'est quoi. Pas
là, le tuyau de sécheuse non plus avec l'entonnoir. Là,
non, tu vois, non, ça, j'ai pas connu ça, moi.
Moi non plus, je connais pas ça. Non, c'est...
Mais... Puis je m'excuse, les gars, de revenir dans un niveau plus sérieux de goûteur, là, mais il y avait... le brasseur nous avait suggéré une fois, OK, de couper cette bière-là avec une autre bière au fruit.
La Bambrasi.
Brambasi.
Oui,
c'est excellent,
ouais, ça. En fait, il y a des microbrasseries qui font ça, des mélanges de bières. D'ailleurs, ça va être un concept qu'on va faire ici à Derrière des micros un jour. On va essayer les mélanges de bières des microbrasseries qui font. Puis, c'est ça, c'est une la Brambasi qui est une blanche aux framboises.
De là, Jean-Guy, peut-être le côté qui se rapproche un peu de la blanche, eux, ils peuvent le couper avec une blanche. Tu peux prendre un deux tiers de petite Floride avec un tiers de cette bière-là, puis ça nous amène à une autre place.
Oui, exact. C'est ça, c'est qu'ils coupent la bière. Ils mettent, par exemple, 50% de la bière, c'est de la petite Floride, puis ils mettent 50% de la Brambasi, qui est une blanche aux framboises. Donc, ça vient couper un peu l'amertume, ça vient donner un petit côté fruité aussi. Là. C'est vraiment intéressant, là. Fait que, ouais, papa qui a des problèmes techniques.
Oui.
C'est 189-183. Donc, tout le monde sait mon code de cellulaire maintenant, si vous...
Ah, merci beaucoup.
Mais juste changer un peu de peut-être de sujet. Moi, j'avais une petite liste de questions. Je voulais pas qu'on rentre trop dans le politique, peut-être, mais surtout des questions pour Jean-Guy. Là, on boit la bière du Quai des Brasseurs, je vais en profiter pour ça. C'est quoi l'ampleur de l'impact au niveau économique que l'ouverture du Quai des Brasseurs a eu sur la Bécancourt et la région alentour? Là? À quel point ça a été gros, en fait?
Très bonne question. 2015 a été une année majeure à Bécancourt. C'était les fêtes du 50e. On a une jeune ville. Là. Et c'est cette année-là qu'on a ouvert le quai. Qu'on a vraiment rendu le quai comme un endroit qui était complètement abandonné depuis l'avènement du pont. On a reparti cet élément-là et le Quai des Brasseurs est venu s'ajouter à toute la dimension qu'on avait développée depuis 1995 avec la tour, avec le dôme, avec tout ce qui s'est passé là. Et il y a eu une effervescence absolument inattendue qui s'est passée. Parce qu'il y a beaucoup de bénévolat à Bécancourt et on a développé une offre culturelle vraiment incroyable avec le quai, avec le dimanche, avec les spectacles, musique et bulles, avec il y a à peu près ça vire à peu près 6 soirs par semaine ça, l'été là, sauf quand on n'a pas de pandémie.
Mais évidemment. le quai là, puis je veux insister là-dessus, Jean-Guy, puis je vais te laisser la parole après, mais le quai il est magnifique.
Oui.
Puis, il est fait un peu à ce qu'on voit là, en Floride et ça, là, sur les codes. Puis, ça, c'est, tu peux y pêcher, laver ton poisson, tu peux... Ouais. Tu sais, c'est ouais, beau, ouais. Là.
Je pense qu'on a réussi à faire quelque chose d'intéressant avec ça. Je veux rendre hommage en même temps à Gaétan du port de Trois-Rivières qui nous a vraiment grandement facilité la tâche. Je pense qu'il y a un rôle majeur à jouer avec ça. Je vais le saluer en même temps, si jamais il est là. Et le Quai des Brasseurs est arrivé à profiter de l'effervescence du quai, et le quai a profité de l'effervescence du Quai des Brasseurs. Parce que le Quai des Brasseurs, il tire large, il tire fort. À cause de la localisation, la marina qui est à côté, à cause de puis c'est beau, c'est un bel endroit. L'organisation la brasserie est visible, tu entres puis tu le vois à droite. Donc, tout ça, c'est le mix de tout ça qui nous a obligés à faire des gymnastiques qui fait que tout ça s'est mêlé là-dedans. Et puis moi, ben j'aime ça dire que la bière, à ce chapitre-là, joue un rôle que j'appellerais socio-économique, moi, à ce niveau-là, dans le sens que au lieu d'avoir les grandes brasseries, bien, on a des éléments nouveaux, puis on le voit aujourd'hui, là, jusqu'à quel point il y a une richesse là-dedans qu'on n'exploite pas avec les grandes brasseries.
Moi, Jean-Guy, chez vous, au niveau de l'impact économique, là, je serais porté toujours à jumeler aussi Sonic et le Quai des Brasseurs. On dit que pour moi, ça, les deux ensemble devient comme une autre force. Il y a comme un effet de synergie.
On a une deuxième microbrasserie qui est en construction, là, qui devrait commencer ses opérations possiblement l'été prochain. On parlait de vignobles. On a deux vignobles, l'un troisième qui est en préparation. Puis on a une microbrasserie, une micro-distillerie, actuellement, qui vient de gagner d'ailleurs un prix là, assez incroyable. Donc, tout ça ensemble crée une effervescence économique nouvelle, différente, intéressante. Et on jasait juste avant de commencer où on disait, l'économie du Québec ou un peu partout en Amérique du Nord, c'est celle où les gros gobent tous les petits. Et à un moment donné, il n'y a plus d'armes nulle part. Et dans le domaine de la bière, c'est le contraire qui se produit. C'est les petits qui sont en train de prendre le marché des gros.
Mais c'est pour ça qu'on se demande.
Et créer des emplois et créer aussi une qualité dans la bière, parce que la bière, c'est un rôle majeur, ça, c'est un produit majeur, ça, dans la festivité des Québécois, là. Donc, moi, je trouve que c'est ce qui peut nous arriver de mieux.
Puis en parlant de ça, je trouve ça intéressant parce que souvent, les personnes nous posent les questions. Tu sais, par exemple, Trou du Diable qui se sont fait racheter par Molson, Archibald, etc., etc. Ça veut dire que c'est des microbrasseries qui ont eu une ampleur assez grosse pour que les commerciales se disent « Oh, tabarouette, on commence à être en danger. » Puis à être obligé à aller les voir puis leur dire « On vous offre tant pour racheter votre microbrasserie parce que vous commencez à avoir une grosse ampleur puis on commence à avoir peur. »
Deux choses là-dessus, si tu me permets. Parce peut-être que ce n'est pas tout le monde qui le sait, mais moi, je viens beaucoup de l'événementiel. Et lorsque un Molson, par exemple, va lorgner du côté de Greenville ou en tout cas du côté du Trou du Diable, ben c'est parce qu'il vient aussi, quand tu parlais d'offres, il vient justement d'élargir sa palette et d'offrir une offre complémentaire. Et ce qui est intéressant pour les microbrasseries qui sont de moins en moins, parce que Trou du Diable s'est rendu un joueur majeur de la bière au Québec, ben c'est la distribution. C'est le positionnement dans les points de vente. Et c'est là que tout le monde, à mon avis, gagne là-dedans. Fait que on peut, comme micro-brasseur ou amateur de micro, avoir le réflexe de regarder ces gens-là de haut, mais il ne faut pas faire ça parce que c'est vraiment une suite qui se fait. C'est comme si la ligne entre la Coors Light et la bière la plus nichée que tu connais, bien, c'est comme si cette ligne-là venait encore une fois de gagner des points de plus. Fait que ça, pour moi, c'est intéressant. L'autre chose, puis c'est pour revenir sur ce que Jean-Guy disait, puis Trois-Rivières, puis aussi Bécancour, on est là-dedans, c'est qu'au niveau de l'innovation dans l'agroalimentaire, la transformation, aussi la mise en marché des produits, on est vraiment en train de se faire une belle place.
Ah ouais.
Et puis, Trois-Rivières, lorsqu'on parle, puis surveiller ça, ça s'en vient. L'ouvrage, qui est notre pavillon agroalimentaire, qui est sur l'ancien Germain Frères ici, va vraiment être une vitrine pour tout ce qui se fait. Puis là, puis quand on parle de ça, là, on n'est plus dans des chicanes de clochers, là. Moi, je veux que quelqu'un achète du gin à Trois-Rivières, puis je veux que quelqu'un achète du gin à Bécancour. Puis je veux que quelqu'un achète la petite Floride, puis de la Rosie. Puis je veux qu'il y ait aussi vers la côte Est. Puis je veux qu'il y ait aussi chez Gambrinus une fois de temps en temps.
Exact.
Mais que jamais il oublie qu'il y a une superbe terrasse au Quai des Brasseurs. Puis quand je vais chez Mescal ici, puis que quand j'achète mes tacos, s'il me suggère une bière du Quai des Brasseurs, je suis bien content. T'sais. Fait que faut vraiment garder cet esprit-là. Puis c'est là qu'on devient gagnant parce qu'on crée des parcours. Puis on devient des destinations. Puis là, on touche au tourisme.
Ouais.
On touche un paquet d'autres secteurs. Puis là, au niveau socio-économique, on est vraiment à la bonne place.
Puis on ne l'a pas mentionné, mais on est rendu aussi avec le mini-quai des Brasseurs, le petit quai des Brasseurs à Trois-Rivières, donc au centre-ville de Trois-Rivières, qui est situé dans la même rue, là, donc la rue Notre-Dame-Centre. Puis encore là, c'est un beau petit coin. Là. Il offre les produits que la quai des Brasseurs offre. C'est sûr que c'est une expérience d'aller directement au quai des Brasseurs à Bécancourt, mais c'est le fun aussi au centre-ville qu'on
aille. Les gens qui ne veulent pas traverser le pont pour X nombre de raisons, mais ils peuvent quand même avoir accès aux produits. Mais
on est rendu là. On est rendu là. Je pense que dans les 5 dernières années, là, on a fait un bout de chemin assez incroyable dans cette capacité-là de travailler ensemble, de regarder ensemble dans la même direction, puis de considérer le pont, non pas de considérer un fleuve, mais de considérer un pont. Le pont est majeur dans toute cette discussion-là. Et quand on continue à faire la navette Bécancourt, Trois-Rivières, dans nos deux quais respectifs, je pense que c'est une symbolique assez importante. Et puis, je pense qu'on est rendu là, puis on a fait un bon travail, je pense, au cours des derniers mois, des dernières années, essayer de la créer, ben, pour employer l'expression de mon ami Baudouin, la ZEN, la zone économique naturelle, qui n'est pas évidente. On est séparés administrativement. Nous autres, on est dans la 17. Si on est dans la 4, ben nous autres, puis je m'amuse à dire qu'on fait partie de la 417, qui est un mix des deux régions. Puis on est condamné à s'aimer. Hein?
Ben oui.
oui.
Puis il faut savoir aussi historiquement, puis Maurice Richard et toi, Jean-Guy, vous en êtes partie prenante, c'est que le parc industriel de Bécancourt et le pont La Violette, ça, les deux ont une raison d'être ensemble.
Oh oui.
Ce qu'on fait, c'est quand on a créé un parc industriel, là, c'est quelque chose. Là, c'est, ça, là, on parle d'une nationalisation d'un quartier industriel. Là, c'est sérieux. Là. Mais on réussit à le ramener à Trois-Rivières via le pont La Violette. Donc, il y a des gens de Trois-Rivières qui profitent de ce pont-là pour aller à l'abbaye. Puis par le fait même, bien, ça fait qu'il y a des gens de Bécancourt qui viennent se faire soigner à Trois-Rivières parce qu'ils en ont besoin. Puis avant, c'était loin. Moi, j'avais de la... Tu sais, Saint-Angèle-de-Laval, là, c'était loin de Trois-Rivières.
T'allais là le dimanche. Quand il faisait
puis,
beau.
Moi, je connais un gars qui est deux personnes à ma droite qui venait, lui, venait chercher ses blondes à Trois-Rivières en traversier. Là. Tu sais, c'était une autre époque, là.
À l'époque que tu connaissais mon passé. Ça allait aussi loin dans mon passé.
J'ai bien hâte d'acheter ton livre,
Donc, on est rendu avec la Long Nose, la microbrasserie de Temps d'une Pinte. Déjà là, à la couleur, on voit que l'opacité est moins présente. Donc, on a un côté plus light, plus transparent. On a quand même le petit côté un peu orange. Mais moi, avec l'expérience d'avoir déjà bu la Long Nose, si c'est encore le cas, est un peu une hybride entre une New England et une West Coast. Ouais. Donc, on va avoir un aspect tropical, mais on va avoir une belle amertume tranchante également. C'est ça qui est le fun aussi, dont on le voit dans la couleur aussi.
Aussi, au nez, je trouve qu'il y a un élément un petit peu différent qu'on retrouve moins souvent dans toutes les New England. Je sais pas si soit Jean-Guy ou si Jean l'a trouvé. Qu'est-ce que ça vous rappelle au nez? On parle pas du fruité, on parle de peut-être une autre petite odeur. Je sais pas ce que ça vous rappelle. Je vais vous laisser l'occasion d'essayer de le déceler.
Ben, je serais porté à dire que comparativement à d'autres New England, puis là, je suis peut-être complètement dans le champ, puis tu me le diras, puis ça sera tant mieux. Mais il y a une acide ou un vinaigre qu'on n'a pas, peut-être pas tout le temps. Ça se peut-tu, ça?
Oui, peut-être légèrement.
Ça, je pense, oui. Je sais pas si Jean-Guy, il y a peut-être au nez une odeur qui ne rappelle pas autant la petite Floride.
Moi, c'est un soupçon d'odeur de skunk dont on parlait tantôt, là. C'est ce que je pense, j'ai l'impression de
trouver. Oui, ça peut s'apparenter à ça. Oui, je trouve que oui, effectivement. Moi, je dirais que c'est une odeur vraiment herbacée qu'on ne retrouve pas typiquement dans les bières de type IPA Nouvelle-Angleterre, qui est particulier un peu à la Long Nose, qui a ce petit aspect-là qui la rend encore plus un peu un hybride entre...
C'est ça, l'aspect hybride, comme je disais. Moi, je suis un amateur de West Coast IPA. Donc, les New England, c'est moins dans ma palette. Moi, je suis vraiment plus forêt, le côté herbacé, côté très amer. Mais les New England IPA, comme la Long Nose, qui ont un hybride entre le côté vraiment fruité du houblon et le côté, l'aspect amer, l'aspect ouais. résineux, ça, je trouve c'est le meilleur des deux mondes. Là. On a vraiment, c'est vraiment le fun. Puis, c'est ça, à l'odeur, on a vraiment le petit aspect herbacé qui va.
C'est là que le chanvré embarque, j'imagine, quand tu parles de la finale. Là. J'aime
ouais.
beaucoup ton l'expression hybride entre
hybride,
les deux
ouais.
parce que je trouvais qu'il y avait une grosse différence de goût entre la petite Floride puis celle-là. Puis tu vois, ils mettent même dans le descriptif, là, le chanvre à la fin va venir,
ah ouais, c'est très différent.
Va venir t'accrocher.
Puis, cette bière-là, elle est bonne. Puis je pense que la petite Floride aussi, c'est la même chose. Elle est bonne. Puis quand tu vas à la brasserie puis que tu la bois en fût, elle est encore meilleure.
Oui. Mais en fût, c'est toujours une coche. Toujours une petite coche de plus. Là. Les bières en fût, c'est vraiment une expérience à goûter. Puis tu vois, moi, je trouve la différence dans cette bière-là, c'est que je trouve qu'elle est moins lourde que la petite Floride.
Oui.
Une effervescence un petit peu plus présente. Fait que c'est vraiment, encore là, on a deux styles similaires, mais très différents dans l'aromatique encore là. Fait que c'est fun de...
C'est traite, ça, le lot, oui, parce que là, on est encore dans le 5-6%, là. On est dans...
Ouais.
On est dans le 6, là, très exactement. Celle-là, la Long Nose, c'est 6%.
C'est ça, ouais. Fait que là, c'est ça. Ça peut être un peu plus léger, mais c'est quand même, ça vient quand même nous jouer dans les genoux, là.
Exact, ouais. Exact.
C'est surtout, je pense, l'aspect principal qui va donner la texture, la lourdeur aux bières, c'est la céréale.
Ouais.
Puis par la suite, on parle de l'effervescence,
le processus, est-ce que le processus de brassage peut faire aussi une différence?
C'est sûr que oui, parce que si on prend, mettons, exactement la même recette de bière, on en fait fermenter une. On va dire, là, c'est pas un chiffre réel, là, parce que je suis pas expert brasseur non plus. On va dire 7 jours pour une. Puis encore la même recette, mais une autre expérience qu'on va faire, la version B, on va dire, on la fait brasser 10 jours, donc 3 jours de plus. Ces 3 jours de plus-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre à la levure d'aller chercher peut-être un peu
plus
les sucres.
De travailler
s'il
plus.
S'il y a encore des sucres, mettons qu'on dit qu'au bout de 7 jours, la fermentation est bien, mais il y a encore des sucres résiduels que la levure pourrait aller chercher un peu plus. Mais c'était 3 jours de plus là, pour la version B, on va dire, qui est hypothétique, va être peut-être un peu plus légère parce qu'il va avoir moins de sucres résiduels. Il va peut-être avoir plus d'alcool parce que, bien sûr, la levure a le temps de
la fermentation
plus,
et tout.
Plus d'alcool, plus de plus longue durée de fermentation, mais au niveau du corps, ça va être plus léger parce que, justement, il y a moins de sucre de présent dans la bière, au final.
Puis il faut mentionner, parce que les gens ne le remarquent pas quand ils boivent la bière, mais brasser une bière, c'est très chirurgical. Il faut tout calculer, le nombre d'ingrédients, pour avoir des batchs qui se ressemblent un petit peu. Parce que c'est vrai qu'on a des différences de batch en batch, mais pour essayer quand même de garder un gap pour pas que les gens décrochent et qu'ils fassent « Hey, je bois ma Long Nose, mais ça goûte pas la Long Nose », il faut garder comme le cap de température, le nombre d'ingrédients, le temps que ça prend. Donc
un brasseur de bière, c'est un artisan professionnel.
Exact.
De la bière.
Exact, un artisan professionnel. Ouais. Exact.
Il y a toujours des enjeux de contamination aussi.
Oui,
contamination.
Ça, c'est
même dans c'est pas un sens très, on n'est pas obligé de se rattacher au sens sanitaire du terme, mais il peut avoir des éléments,
exact,
qui vont venir jouer dans
totalement le... totalement
le meilleur exemple, c'est la levure sauvage qu'on parlait,
exact,
tantôt,
la
levure de type Brettanomyces. La majorité des brasseries comme à l'affût qui travaillent beaucoup avec la Brettanomyces ont une pièce ou carrément un bâtiment de brassage qui est dédié aux bières avec des levures traditionnelles. Puis ils ont une autre pièce qui est vraiment séparée là, hermétiquement, ou carrément un autre bâtiment,
ouais,
qui est dédié au brassage de bières avec levure sauvage, de levure Brettanomyces.
Parce que
si la levure Brettanomyces décide de se déposer, mettons, sur une colonne de bois, puis qu'elle se promène dans l'air un moment donné, puis là... Elle tombe dans le vœu, dans la recette de bière qui normalement n'a pas de levure Brettanomyces. Ça risque d'infecter le produit. Puis ça peut infecter les équipements. Fait que la levure va rester en partie sur les équipements. Il y a des brasseries qui ont déjà eu ce problème-là. Ils ont fait des fois des collaborations. Des brasseries qui sont habituellement, ils ne vont pas jouer avec ce type de levure sauvage-là. Puis, ils disent, hey, on fait une collaboration, OK, on essaie de la levure sauvage. Puis là, ils font attention, puis ils savent que c'est dangereux.
Ça l'infecte.
Ils nettoient, puis au final, c'est quand même infecté. Ouais. La levure sauvage s'est installée à quelque part, puis elle a contaminé l'équipement au complet ou carrément la pièce ouais. où ce que les produits sont brassés.
La brette pour la bière, c'est comme le coronavirus, en fait. Là. Ça s'infecte. C'est comme une
ouais, peste. Ça n'a pas le même effet.
Non, 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 non par exemple.
Fort heureusement.
Mais vous dites ça, puis dans le vin, Jean-Guy, c'est ça aussi, quand on parle de chaque région, souvent que des régions ont des goûts distinctifs, mais c'est pas uniquement le fruit. Ça peut être les roches, ça peut être les branches, ça peut être, ça peut être le vent. On le voit avec le scotch, des vents marins vont donner un goût salé, tu sais. Fait que c'est mais le terme contamination, dans ce cas-ci, il est pas nécessairement péjoratif. Sauf que quand tu parles de contrôle, sur ta recette, là, c'est autre chose, mais normalement, il y aurait comme... Ça fait bizarre de dire ça. Il y aurait comme une saine contamination.
Oui, bien, c'est moins une contamination dans cet aspect-là. Je pense que c'est plus un ajout, on pourrait
influence.
Dire. Une influence, oui. Mais quand on parle dans la bière plus de contamination, c'est qu'il y a eu une bactérie.
Infectée
souvent, très souvent, on parle de bactéries, de levure, de aux champignons. Ben, en fait, la levure, c'est les champignons. Puis les bactéries, c'est dans une autre catégorie. Mais
puis avec les marges de profit des microbrasseries, c'est dévastateur.
Ah, ça n'a aucun bon
sens. Tu veux pas jeter ta recette dans le drain. Là.
C'est
le moins souvent possible.
Quand tu dois faire ça, ça fait mal.
Ouais. Moi,
c'est du temps aussi. C'est que tu occupes tes cuves pendant un mois pour les mettre dans le puisard. Tu sais, ça fait mal. Je présume que ça doit être...
Ben, c'est ça, puis l'affaire avec la brette, c'est que c'est dévastateur parce que ça vient infecter tout, puis c'est le nombre de litres de bière qu'il faut que tu jettes après ça, c'est énorme. Puis en plus, ensuite, il faut que tu calcules tout le temps qu'il te faut pour laver comme il faut, parce que si tu en oublies, tu refais une batch... Bam, a réussi à ça. Fait que des fois, là, ça peut être...
Tu me parles de litres qu'il faut jeter, puis j'ai le goût de pleurer.
Ouais.
Je m'étais fait dire que la brasserie Le Castor, qui est à Rigaud, brasserie qui fait des produits biologiques, on avait une bière qui s'appelait la Oui Evy Bourbon. C'est une bière que j'affectionnais particulièrement.
C'est le petit point faible à Martin, cette bière-là.
Puis... bières qui n'offront plus d'ailleurs, malheureusement. Je me suis fait dire qu'une année, ils ont été obligés de jeter le brassin au complet à cause que leur baril de bourbon avait été infecté avec de la levure sauvage, justement. Ouais. Donc, normalement, on a produit une bière brune qui est caramélisée, qui a un aspect un peu boisé, bien sûr, à cause du vieillissement en fût de bourbon, le petit côté vanillé du bourbon un peu fumé. Puis que là, ben à cause qu'il y avait une levure sauvage, je m'en doute peut-être qu'il y avait peut-être un côté rustique, un côté acide qui s'était développé au niveau de la bière. Fait que à place de dire, hey, on la sort, puis le monde, ils vont peut-être chialer, ou on dit, c'est un produit différent, ou c'est une version spéciale. On juste fait, non, c'est pas notre standard, on la jette.
Ouais. Ça, papa, là, la Oui Evy Bourbon du Castor, c'était une Scotch Ale. Un vieil amphi de Bourbon, t'aurais.
Écoute, c'est ça. C'est mon faible moi. Hein?
C'est vrai, toi, t'es un gars de scotch.
Ouais, vraiment.
Ouais,
de
ça, écoute, puis je m'en cache pas, là, j'aime bien les produits qu'on voit là aujourd'hui, là, mais moi, mon gros coup de cœur en région, c'est la Forge du Malte. Et puis quand ils ont sorti le 4 Scotch Ale là, récemment, là, c'est un gros wow.
Il y avait une West Island que tu peux probablement pas tenir chez vous. De la Forge du Malte, qui était la Trois-Rivières, qui était c'est un produit
exclusif.
GA, je pense.
Ouais.
Mais elle est loin d'être mauvaise. Moi, je l'aime bien, cette bière-là. Je ne suis pas un gars de West Island.
The
West Coast. Mais je la trouve vraiment intéressante. C'est une bonne introduction au West Coast.
Oui. La Forge du Malte, ils font des très
On a des beaux produits régionaux. Puis tantôt, je vous écoutais tantôt. Tous les deux, Jean-Guy puis Jean, parler de la collaboration entre les régions qui est importante. J'aime beaucoup le terme « on est condamné à se parler ».
S'aimer.
À s'aimer. Puis c'est comme ça qu'on développe des beaux partenariats. Puis dans le monde des microbrasseries, la semaine passée, avec la gang de Beauregard, je pense que les gars en parlaient beaucoup, qu'entre microbrasseries, il y a une belle collaboration. Ah, tu sais, un peu plus tôt, quand Jean-Guy est arrivé, on parlait des fameuses guerres Molson contre O'Keefe, contre la Labatt, puis ils ne s'aimaient pas. Puis si tu buvais de la Molson, tu n'allais pas boire de la O'Keefe, même chez ton beau-frère, parce que c'était une claque.
Moi, mon père disait qu'il ne buvait pas de la Labatt bleue parce que ça donnait des boutons sur les fesses.
Aussi.
Puis lui, c'était Laurentide, Laurentide. Là, puis il était pas aussi, question, puis c'est ça.
Moi aussi, c'était de la Laurentide à côté.
C'est fun de voir vraiment la chimie, à quel point ça l'a changé. Oui. Aujourd'hui, le monde, c'est plate quand on voit des guerres comme ça maintenant. Là, c'est tellement rendu frère que...
Et on le vit aussi, puis si vous me permettez, j'ai travaillé comme 20, peut-être en espacement, sur une peut-être un quart de siècle, j'ai travaillé dans des bars et les restaurants, plus ou moins... parfois plus, parfois moins. Puis à l'époque, au début, là, moi, j'étais DJ. Puis s'il y a un DJ qui rentrait dans mon bar, ben il y avait des chansons que je mettais pas de peur qu'il ait le goût de les mettre dans le sien.
Ouais.
Mais là, on n'est plus là du
non,
tout.
Non, c'est ça.
Là, les restaurants font des menus conjoints. On a des invitations. Les brasseurs, tu sais, je voyais, il y a des bars qui tiennent la bière. Du Gambrinus, vous voyez, on est complètement ailleurs. Puis ça, c'est pas ma génération, c'est plus la vôtre, là. C'est pas la nôtre, les gars, c'est la vôtre. Puis moi, bravo, parce que vous avez compris des choses qu'on n'a pas été capable de comprendre.
Mais c'est le fun à voir aussi, parce que dans les collaborations, puis il y a de plus en plus de collaborations dans les microbrasseries, par exemple, si jamais t'en as une fois, fait une collaboration avec le Quai des Brasseurs, puis ça donne des produits tellement intéressants. C'est le fun de voir deux microbrasseries qui s'agencent ensemble et que ça donne un produit comme fou, là. Fait que c'est vraiment le fun de voir ça. Puis le temps file, donc on va s'en aller vers la fin direct, tranquillement, pas vite. On fait quelque chose.
C'est le moment où tu sors les plateaux de fromage.
c'est là que la guerre s'en vient, parce que il faut donner ce qu'on appelle le coup de cœur du podcast. Donc chacun à notre tour, on doit donner un coup de cœur de la bière qu'on a préférée ce soir. Donc, on a le droit à juste un choix, malheureusement. Donc, une découverte que vous avez faite, que vous attendiez pas à ça, peu importe dans quel produit que ça peut être. Puis, nous, ensuite, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va le publier sur notre page Instagram, comme le coup de cœur du podcast, et on va faire la description de la bière, et on va dire où que c'est disponible également. Donc, on va commencer avec Jean-Guy. Quel est ton coup de cœur du podcast de ce soir?
Écoutez, pour vous montrer à quel point je suis neutre, la dernière, pour moi, c'était une sorte de bière hybride.
La Long Nose, oui.
Qui était, puis je ne sais pas, la Long Nose, ça vient du Quai des Brasseurs ou pas, je ne sais même pas, là, au moment où je vous le dis. Est-ce qu'elle vient du Quai des Brasseurs?
Non, c'est le temps d'une pipe.
Bon, oui, ben, puis en échange, je vais prendre une bière du Quai des Brasseurs.
Le 20$, ils viennent de revenir de ce bord-là. Là.
Je ne savais vraiment pas d'où elle était, mais celle-là, c'est qu'elle allait chercher... les éléments fruités de ce qu'on a vu au début, les éléments étaient moins lourds que l'avant-dernière qu'on a pris. Et puis, je trouve qu'elle avait un savant mélange là, de deux types de bières. On a bu deux types de bières finalement, là, moi, dans mon évaluation. Là. Et la dernière, là, c'est la podcast.
La Long Nose.
La Long Nose. Alors moi, ça serait celle-là.
C'est vrai, c'est vraiment un beau produit. Puis n'oubliez pas, dans le chat, là, vous pouvez nous dire aussi, papa, il va nous dire c'est quoi votre coup de cœur, mais vous pouvez dire c'est quoi votre coup de cœur de ce soir. Oh. Moi, je vais y aller avec la Cubicus. Je ne l'ai pas bu énormément souvent. La première bière qu'on a bu, en fait, je trouve que c'est vraiment là, une bière hyper rafraîchissante, très désaltérante. On a un bon côté de fruits tropicaux. Là, c'est un avalanche de fruits tropicaux, une explosion de saveurs en bouche. C'est très, très bien fait. Puis en plus, ce que j'aime, puis de plus en plus, on a des 473 millilitres sur le marché, donc des grandes canettes. Mais moi, j'aime beaucoup le format du 355. Donc, ça, c'est très intéressant aussi, parce que tu peux déguster goûter plus de bière. Des fois, dans le cas, ça paraît pas, mais dans le 473, on a quand même beaucoup de quantité de bière. Donc ça, c'est très le fun. Puis encore là, c'est parce que la complexité et tout, là, ça serait mon coup de cœur de ce soir, la Cubicus.
Ben, moi, je suis un amateur de longue nose et de petite Floride. Fait que je vais faire exprès, je les prendrai pas. Parce que c'était déjà, tu sais, c'était déjà.
Je les connaissais déjà très bien.
La Rosie, j'ai bien aimé la Rosie parce que, justement, il y a quelque chose qui nous sort un peu, qui nous met un petit peu en marge de l'univers de la bière tel que moi je le connais. Fait que moi, je vais y aller avec la Rosie pour la couleur, pour l'acidité, puis pour le parfum de framboise.
Yes!
Parfait. Moi, je dirais que c'est la Cubicus, moi aussi, parce que c'est, comme Charles a dit, là, c'est une explosion de saveurs de fruits tropicaux. C'est une acidité, c'est un aspect surette qui est vraiment pas trop agressif. Que j'ai gros du monde qui sont comme « Ouais, j'aime un peu les surettes, mais j'ai pas trop. » Ça, c'en est une que je suggérerais pour ça, parce que
belle
porte
d'entrée.
L'acidité est pas trop prenante pour dire « Ah, ça pince trop les joues quelque chose comme ça. » Donc, moi, c'est mon coup de cœur pour ce soir.
Yes. Et papa, ton coup de cœur de la soirée?
Ben, je vais commencer. Je vais laisser la parole à nos gens sur le chat. Alors, on a deux votes pour la Cubicus en premier.
Ah,
fait que si je calcule bien, là, ça fait 4 pour... ça fait,
là, les experts, toi, Charles, ça compte double au niveau des votes.
Non, oui. Oui, puis là, moi, mon vote ne changera rien, malheureusement, mais moi, je vais y aller avec mon classique, la petite Floride. J'ai beaucoup aimé j'aime, étant donné que je suis un amateur de scotch, j'aime qu'est-ce qui est plus fort en alcool un peu. La petite Floride, elle vient me chercher ça, puis c'est un coup de cœur. Les autres, c'est moi dans ma palette. Là, fait que moi, c'est la petite Floride. Fait que un vote, on dit pas ça, hein, un vote pour rien. On a voté, on est heureux. Alors, n'hésitez pas. Je vais en profiter d'ailleurs. N'oubliez pas, là, ceux qui sont avec nous, là, Monsieur Dubois prend sa retraite, mais il y aura évidemment des élections municipales à Bécancour, mais sans Monsieur Dubois. Et Jean Lamarche qui se représente à la mairie.
Oui, il y aura des élections à Trois-Rivières avec Jean Lamarche.
Avec Jean Lamarche le 7 novembre. Alors, allez voter, c'est important. On ne le dit jamais assez, surtout la jeune génération qui se déplace moins, particulièrement au municipal. C'est important, chaque vote compte. Voici, c'était mon message d'intérêt public.
Merci beaucoup pour ce message. Et
j'avais juste... Je voulais la poser. On n'a peut-être pas eu l'occasion tant que ça. Vite, Jean-Guy, qu'est-ce qui va te manquer le plus au niveau du travail de maire, le travail de maire à Bécancour, là? Mais j'imagine que ça peut, pour n'importe quelle ville, ça peut s'appliquer.
On va rester dans la thématique, l'effervescence.
OK.
Mais c'est vrai.
C'est bon.
Ah non, ouais, c'est ça. Bon. C'est ça. C'est que, écoute, ça va faire 24 ans, puis je me promène partout, je vois plein de monde. Bon, ça a été une expérience positive de façon très générale là, en ce qui me concerne, là. Donc, c'est sûr que je vais avoir un deuil à vivre là, le 8 novembre, mais je me suis pratiqué pendant 2 mois là, à vivre la retraite là, avec l'accident que j'ai eu. Donc, ça devrait bien aller, mais mettons que je me suis pratiqué à être retraité. C'est pas évident d'être retraité. On passe toute notre vie à souhaiter la retraite, à attendre la retraite, à préparer la retraite, à ramasser de l'argent pour la retraite. Puis quand on arrive à la retraite, ça nous tente quasiment à plus d'y aller. Alors, c'est un petit peu ça qu'on a à vivre, mais ça devrait bien se passer. Ça devrait bien aller, comme dirait le premier ministre.
Vous savez que la fonction de maire, c'est une des rares fonctions que tu peux garder toute ta vie. C'est-à-dire que Jean-Guy va prendre sa retraite, mais les gens peuvent continuer de l'appeler Monsieur le maire. Ça fait partie des...
Je savais pas. Tu me l'apprends.
C'est ça. Fait que, tu seras toujours monsieur le maire. Toujours. Condamné. Condamné à m'aimer et condamné à être monsieur le maire.
Yes. Avais-tu une dernière question, Martin?
Non. Ben, je voulais, en fait, il a mentionné brièvement son accident, mais je voulais juste dire que M. Jean-Guy et sa conjointe sont en très bonne rémission, ce qu'il nous disait tantôt. Là.
Ça va bien.
Donc, aucune séquelle. Donc, on est content pour vous.
Merci beaucoup.
C'est une bonne chose là, que ça ait bien été. Là.
Merci pour le travail d'éducation que vous avez fait avec moi aujourd'hui.
Ben,
je peux vous dire que je pense que je vais passer l'examen.
Yes, puis merci beaucoup d'être venu. C'était super trippant. Puis j'oublie pas l'idée pour le temps des sucres. Avec, ça serait le fun de refaire un deuxième concept avec vous. Là. Je vais le garder en tête. Merci à papa d'être venu faire le technicien aujourd'hui.
Hey, ça m'a fait plaisir. Yes, vraiment, puis... là, je me sens pas à ma place, là, mais ça a bien été. Ça a bien été. J'ai même un qui m'a félicité là, pour mon travail, fait que je suis bien content.
Génial, puis, ça. Merci à tous d'avoir été là. Merci encore une fois à Martin d'avoir été là. Donc, passez une excellente soirée, puis on se dit à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Salut tout le monde!
Salut!
Merci beaucoup.